Vous écoutez Interplayer 2, le podcast qui vous fait partir à la rencontre de celles et ceux qui mettent en valeur le jeu vidéo, ses créations, ses créateurs et ses créatrices. Salut à toutes et à tous, ici Denis Jeep. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission d'Interplayer 2. Je vais accueillir avec plaisir quelqu'un qui est un gamer, mais aussi qui est un auteur de livres autour du jeu vidéo, qui s'appelle Nicolas Denéchaud. Donc, salut Nicolas.
Salut Gilles, ou Denis, je sais pas, d'ailleurs.
Et oui, donc mon vrai petit prénom, c'est bien Gilles, effectivement, et sur les réseaux, sur les internets, c'est Denis Jeep. Donc voilà, merci de dévoiler mon identité secrète. Nicolas, je suis bien content de t'avoir, déjà parce que tu as coécrit un livre sur le jeu vidéo qui est sans doute un livre que j'ai adoré, qui est un livre excellent et qui est sur ma saga préférée du jeu vidéo. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Et là, tu viens de sortir aussi un livre, cette fois-ci en solo, sur une célèbre licence de LucasArts, quand LucasArts existait, quand LucasArts faisait des jeux fantastiques. Donc on en parlera aussi dans cette émission. Mais avant de parler de tout ça, Nicolas, est-ce que tu peux un peu justement te présenter et parler un peu de ton cursus, tes passions et hobbies qui sont un peu autres que le jeu vidéo, avant qu'on rentre un peu dans le nerf de la guerre?
Ouais, c'est parti. Alors, mes passions. Alors, déjà pour me présenter, Nicolas Denichaud. Je suis un ancêtre pour la communauté parce que j'ai déjà dépassé la quarantaine. Donc, ça fait que j'ai commencé sur des machines que les jeunes de 20 ans ne doivent plus connaître maintenant. Ça fait donc un petit paquet d'années que je joue. J'ai commencé le jeu vidéo. Je sais pas, je devais avoir à peine 10 ans sur des machines aussi exotiques que l'Atari 2600 ou le Commodore 64 ou ce genre de choses. Enfin, j'ai beaucoup joué sur Amiga, j'ai passé énormément de temps dessus. D'ailleurs, ça a été une grande histoire d'amour avec cette machine, ce qui explique l'écriture de ce livre donc sur cette saga dont on va parler tout à l'heure. Et puis, voilà. Donc, on rentrera probablement plus en détail pendant cette émission, mais je suis venu à écrire aussi bien sur le cinéma que sur le jeu vidéo. D'ailleurs, au début, c'était plus sur le cinéma. Parce que c'est ma grande passion. Je gravite autour, alors que ce soit des festivals ou de tous les styles de cinéma, alors plutôt des cinémas de genre, depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années. Et puis voilà, bon, c'est quand même mes grandes passions. Après, j'ai tout un tas de hobbies, mais que je garde pour moi.
D'accord, je vois, tu veux pas des. C'est des passions qui sont non avouables, c'est ça?
C'est ça, exactement. Mais voilà, bon, globalement, je suis d'actualité, je suis un gros bouffeur de cinéma, quel que soit le type, quel que soit le genre, plutôt du genre enthousiaste. Et sur le jeu vidéo, par contre, pour le coup, je serais peut-être en vieillissant un poil plus difficile, un poil plus éclectique. Sachant que j'ai quand même des genres de prédilection, que par exemple, je ne joue jamais en ligne, quasiment jamais, que c'est pas du tout mon truc. Donc, j'ai conscience de rater un grand pan vidéoludique, mais voilà, c'est pas ma came. Et que globalement, j'aime bien que les jeux racontent une histoire, donc évidemment que je lorgne plus sur le jeu narratif. Et probablement en corrélation avec mon amour pour le cinéma. Voilà.
Ouais, bah effectivement, bah je te comprends. Alors je partage tout à fait ton côté sur le jeu en ligne. Moi, c'est pareil. Même le jeu coop, j'irai plus loin. C'est-à-dire que même en coop, en fait, ça m'intéresse pas non plus. Ceci dit, je suis pas là. À chaque fois, je le répète à chaque fois, mais parce que je le fais trop souvent. Si je ne suis pas là pour parler de moi, ce n'est pas mon émission. Tu parlais du cinéma, justement, du cinéma de genre. T'as écrit, donc, tu peux nous dire un peu sur quoi t'as écrit avant de te lancer, justement, d'un côté jeu vidéo. Je suppose que comme tu l'as dit, l'écriture autour du cinéma. Donc, c'est un truc qui t'est venu, c'était quoi? Tu faisais des critiques, des analyses, t'étais sur des revues en ligne, c'est passé comment?
J'ai commencé par donner mon avis sur tout et n'importe quoi comme tout le monde, comme tous ceux qui sont devenus pigistes ou critiques ou quoi que ce soit, sur les prémices de ce qu'était Internet donc, à la fin des années 90, sur forum, et puis sur IRC, enfin à l'époque, des choses comme ça. Et de fil en aiguille, en fait, écoute, j'étais amené alors. Vraiment, pour savoir exactement comment j'ai commencé, je ne me rappelle même plus, tu vois, mais petit à petit, on a gravité autour d'une espèce de petite communauté dans laquelle étaient mêlés des gens qui bossaient sur Mad Movies ou d'autres magazines. Et puis rapidement, en fait, j'ai eu l'occasion d'aller une première fois à un festival qui s'appelle le Festival du Gérardmer, qui est le festival du film. Donc là, ça devait être en 2001-2002, quelque chose comme ça. Et là, en fait, on m'a proposé d'écrire des premiers papiers. Alors, pour différents sites à l'époque, il y avait des trucs type DVD Alliance, enfin, tout un tas de trucs. Tu sais, c'était
Ah
la
oui, je
grande
m'en
période
souviens.
où il y avait tous ces sites et tous ces magazines qui commençaient par DVD quelque chose.
Les années laser et tout, ce genre de truc-là.
Alors, les années laser, effectivement, je les connaissais, mais par contre, j'ai jamais écrit pour eux. Mais alors, il y avait tout, il y avait DVD classique, DVD, etc., et j'en passe. Tant et si bien que du coup, je multipliais mes week-ends, mes vacances dans différents festivals de ciné, que ce soit Gérardmer, l'Étrange Festival. Ou le festival du film asiatique qu'il y avait à Deauville, enfin voilà, tout un tas de festivals, ce qui fait qu'à un moment, bah, j'ai eu envie de monter mon propre site, à l'époque où c'était encore où on pouvait encore avoir ce genre d'ambition, tu vois, encore pareil, hein, tu vois, on était vers 2003, 2004, 2003, je crois.
Ouais, il y avait de la place en fait pour monter.
Ouais, il y avait de la place, et puis surtout dans le cinéma de genre. Finalement, il y avait un ou deux sites vraiment spécialisés de qualité qui produisaient et puis stable, tu sais, dans la durée. Mais par contre, il n'y avait pas encore un créneau de type site de news. Il n'y avait pas
Ouais.
les réseaux sociaux ou en tout cas pas tels qu'on les connaît. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Hein. Il n'y avait même pas le web 2.0. Globalement, les réseaux sociaux, c'était ICQ ou des forums ou des choses comme ça, tu
Et MSN pour
vois.
les messageries. Hein.
Et MSN, exactement. Ouais. Donc, c'était difficile quand même à l'époque de se procurer de la news en absence de réseaux sociaux. Il y avait même pas encore les flux RSS. Enfin, vraiment, c'était les prémices. J'ai l'impression de parler de la préhistoire d'Internet. Hein.
Non mais c'est là que tu te rends compte à quel point ça va vite, mais c'est vrai que c'était l'époque où, mais c'est pareil pour le jeu vidéo, où les trailers, tu les avais en fait au cinéma. C'est tout pour les films et dans les jeux vidéo tu les avais dans les magazines avec les un peu sur internet et sinon avec les démos quoi tu vois c'était ça paraît pas si loin et pourtant ça a tellement changé.
Bah, c'était exactement ça. Et moi, je me faisais une grosse spécialité, si tu veux, de fouiller la toile. C'est marrant d'ailleurs, hein, parce qu'au final, je m'aperçois que j'ai une introspection. Hein. Mais au final, je m'aperçois que ça n'a pas beaucoup changé hein, pour écrire un bouquin sur les jeux vidéo. Ça reste un travail d'archéologue aussi. Mais je fouillais les tréfonds d'Internet. Et de toute la presse que je pouvais avoir, aussi bien anglo-saxonne que japonaise ou autre, pour dénicher les dernières photos, les derniers trailers, les dernières infos sur tous les films de genre. Et donc, j'avais créé un site qui s'appelait Cinéjour. On était dans sa plus grande forme une dizaine de rédacteurs. Ça a duré 5 ans. Puisque bon, par usure et lassitude, et surtout parce que le Internet changeait, on entrait dans le Web 2.0, et puis il commençait à y avoir des gros mastodontes, type Webedia, etc., qui trustaient la place. Donc évidemment, des petits amateurs comme nous, on n'avait plus notre place. 5 ans pendant lesquels on a écrit critique sur critique, mais ça nous permettait d'être invités aux avant-premières, de profiter des festivals, en étant accrédités. Donc c'était fantastique, nous c'était cool, c'était tout ce qu'on voulait en fait. Évidemment on n'était pas payé, mais c'était on n'en demandait pas plus, tu vois. Enfin, et puis on rencontrait plein de monde, on a fait plein d'interviews, c'était enfin voilà, on rencontrait tous les gens qu'on avait envie de rentrer. C'était un pan du cinéma. C'était pas Star et Paillettes, on était vraiment voilà, des réalisateurs japonais type Hideo Nakata ou Takashi Miike.
Ouais,
Et puis
et à l'époque où ils étaient connus, mais pas encore ultra connus comme maintenant, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment un domaine plus de niche encore à l'époque.
Ouais, c'était, je sais pas, parce que en fait c'était les années de leur explosion. Hein. Hideo Nakata, il avait déjà fait Ring, Takashi Miike, il avait déjà fait au moins 40 films.
Ouais, mais je parle pour le grand public, parce qu'en fait,
Oui, non, voilà, pour le grand public, si tant est qu'il soit connu aujourd'hui,
oui,
je me
d'ailleurs,
dis qu'il est toujours.
c'est vrai
Mais
en plus.
en tout cas, voilà, c'était tout un pan du cinéma, mais c'était le cinéma qu'on aimait. Et nous, on était trop heureux de pouvoir l'approcher, pouvoir poser des questions à ces gens-là. Voilà. Enfin, et on n'en demandait vraiment pas plus, quoi.
Ouais, tu parles des japonais. Tu parles le japonais d'ailleurs? Tu maîtrises quoi comme langue d'ailleurs, tant qu'on y est?
Ah, je parle pas du tout japonais. Je dois connaître trois mots, les principaux, quoi. Bon appétit, et puis je veux une bière. Mais sinon, non, je parle anglais. Alors, je parle très mal anglais. On me fait régulièrement constater que j'ai un accent de chiotte et que je l'écris très très mal aussi. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Je persiste quand même. D'ailleurs, je tweete la majeure partie du temps en anglais, quitte à écorcher tous les anglophones.
Ouais, bon, mais en même temps, le mieux c'est déjà de le comprendre et de le lire, ça permet déjà de. Surtout quand tu fais des recherches, je suppose que c'est un truc qui t'a bien aidé.
C'est complètement indispensable.
Toujours en parlant cinéma, j'ai vu, parce que j'étais un peu, comme d'habitude, pas stalké, mais j'étais un peu checké les informations que j'ai pu trouver. Et donc, en parlant de cinéma japonais, cinéma de genre, j'ai vu que t'étais un fan de ce qu'on appelle des kaijus, c'est ça? Est-ce que tu peux expliquer rapidement pour ceux qui connaissent pas ce que c'est et en parler un peu de cette passion?
Alors effectivement, je suis un gros gros fan de kaiju. Alors qu'est-ce que c'est le kaiju? Le kaiju Aiga, c'est un style de film japonais qui est apparu très exactement en 1954 à la sortie d'un petit film pas très connu en noir et blanc avec un gros monstre en caoutchouc qui s'appelait Godzilla. Et donc c'est Godzilla qui a fait naître un style à part entière. Comment on pourrait définir le kaiju Aiga? C'est en règle générale, à minima, un film de monstres plutôt en stop motion, donc c'est-à-dire que c'est un acteur qui est dans un costume et qui joue le monstre, normalement pas un monstre en numérique ou quoi que ce soit, mais évidemment, les années passant, tout ça a été un petit peu dévoyé. Il y a eu une production incroyable au Japon, mais aussi en Corée, en Chine, au Vietnam, et j'en passe, même en Europe, de Kaiju Eiga en Italie, qui utilisait toujours ce même système, donc avec généralement des sous-textes, alors plus ou moins fins, sur des éléments politiques, sur l'écologie, etc., etc. Donc j'ai découvert ça, bah, pareil, tu vois, dans cette période, la période ciné-genre, là. J'ai découvert ça pas par Godzilla, j'ai découvert ça par Gamera, qui est la tortue millénaire, une autre série de films de la Daiei, donc le concurrent de la Toho qui produisait Godzilla. Et puis je suis tombé complètement amoureux notamment d'une trilogie assez connue pour les amateurs, la trilogie Gamera de Shusuke Kaneko, qui est sortie dans les années 90. Et en fait, ça a été le gouffre, quoi. Là, c'était la boîte de Pandore. J'ai ouvert le coffre et puis j'ai découvert des dizaines et des dizaines de films. Alors, je vais être complètement honnête, il y en a au moins les trois quarts qui sont complètement achetés. Mais alors, pour ce qui reste, c'est fantastique. Voilà. Quand on sait les apprécier, c'est génial. Et alors, effectivement, cette année, il y a alors, bon, j'aurais du mal à le qualifier de Kaiju Eiga. Mais il y a la suite du Godzilla de Gareth Edwards qui est sorti en 2014, Godzilla King of the Monsters. Mais donc j'avais plutôt apprécié celui de 2014. Je trouvais ça plutôt pas mal pour tout un tas de raisons. Donc j'attendais plutôt gentiment, j'attendais pas particulièrement, j'attendais beaucoup plus du Godzilla japonais qui est sorti en 2016, qui s'appelle Shin Godzilla. Et puis en fait, c'est aux premières bandes annonces, au premier trailer qu'on a pu voir émerger sur la toile. C'était à la fin de l'année dernière sur le Godzilla 2 King of the Monsters. Là, par contre, j'ai pris une grosse claque. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de regarder toutes les bandes annonces, enfin la plupart des bandes annonces. J'essaie de faire un blackout sur tous les visuels, mais c'est pas évident parce que j'ai envie encore de me laisser un petit peu de surprise. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une telle masse de trailers que c'était compliqué. Mais alors, à la vision des premières images que dévoilait la bande-annonce, j'ai été complètement happé, quoi. C'est-à-dire que j'ai retrouvé, pour le coup, des sensations qui n'existaient pas du tout dans le Godzilla de 2014, des sensations de féerie monstrueuse telles que peut l'amener que peuvent l'amener t'amener des grands épisodes de la saga des Godzilla. Donc je suis hyper impatient de découvrir ça. Ça pourrait être enfin le premier vrai kaiju eiga américain modernisé. En tout cas, j'espère. Voilà. J'irai le voir dimanche d'ailleurs. Enfin, à la sortie de ce podcast, probablement pas.
En fait, c'est ça, c'est que quand le podcast va sortir, je pense que tu l'auras déjà vu puisque le film sera sorti. Voilà. Mais au moment où on enregistre là, puisqu'on est, on n'est pas encore fermé. Effectivement, le film sort et n'est pas encore sorti, mais bon, ça. Mais moi, je te comprends. De toute façon, le trailer aussi, alors que j'étais pas spécialement attiré. De toute façon, quand tu fais un trailer qui est super bien foutu et qu'en plus tu mets du Debussy en musique dessus, ça en général, ça.
Méfiance totale. Hein, le trailer du Godzilla 2014 de Gareth Edwards, c'est probablement un des meilleurs trailers de blockbuster américain que j'ai jamais eu l'occasion de voir. C'était incroyable. C'était genre, je sais pas si t'as ça en tête, mais. T'avais la musique, la fameuse musique de Ligeti qui avait déjà été utilisée dans 2001 où tu voyais sauter d'un avion militaire en parachute au-dessus d'une ville américaine et tout d'un coup Godzilla qui transperçait la brume et les nuages. Enfin, c'était fantastique, c'était absolument merveilleux.
Après, on peut aimer ou pas, mais en termes quand même de réalisation et de photos, le film il est quand même super bien fichu, quoi.
Non, mais c'est ah oui, ils sont incroyables, hein. Ils sont incroyables. Gareth Edwards, il sait s'entourer et même ça. Donc, l'autre film qui se passe dans le Monsterverse, comme de Legendary, hein, le producteur. Donc qui est Kong Skull Island et aussi quoi qu'on en pense magnifiquement.
Ah oui oui, la photo elle est exceptionnelle. Non mais franchement après oui, effectivement l'histoire tout ce qu'on veut, mais Edward il est quand même fait très bon pour ça, parce que son premier film il avait réalisé avec peu d'argent, la Monsters, il était super beau. D'ailleurs c'était probablement un des plus beaux films de monstres, hein, d'ailleurs américain pour le coup.
Américain oui, mais alors pour le coup il n'y a pas énormément de... Enfin, si on met King Kong mis à part, il y a pas beaucoup de concurrence, probablement pas celui de 98. Mais Monster, c'était déjà une belle prouesse. Et effectivement, au niveau de l'image, c'était fantastique. Et je veux dire, il a pas démenti même avec son Star Wars.
Qui est le meilleur Star Wars depuis le rachat de Disney, pour moi, en tout cas. Mais c'est pareil, c'est moi.
écoute. Chacun s'en discute. Mais...
ça se discute totalement, mais c'est pas le sujet. On va quand même dériver un peu plus vers les jeux vidéo, sinon on pourrait faire sur le cinéma parce qu'il y a plein de choses à dire. Pour les jeux vidéo, donc avant d'arriver aux côtés des livres, est-ce que tu avais justement. Je pose une question, mais c'est une question rhétorique parce que je sais que tu avais déjà un peu écrit. Est-ce que tu as écrit sur des sites ou des choses comme ça, des critiques de JV, d'analyse, avant justement de te lancer dans le projet des bouquins qui est tout à fait récent? On va y venir, mais c'est quand même très récent.
Un petit peu. Je pense que ça devait être au milieu des années 2000. Hein, donc j'avais toujours. J'essaie toujours tenir ce site aussi déjà. Et j'ai dû écrire, alors je sais pas si c'est encore trouvable, un ou deux articles sur un site qui s'appelle Gros Pixel, que j'aimais beaucoup, dont j'aimais beaucoup la communauté, qui existe toujours d'ailleurs et qui est toujours aussi bien. C'est un site extrêmement bienveillant et enthousiaste sur tout ce qui est rétro. J'avais toujours aimé le ton, donc j'avais écrit un ou deux trucs, mais c'est tout, ça se limitait à ça. Hein. J'étais vraiment fondu de ciné, et je le suis toujours. C'est toujours à l'époque, vers choses comme ça, j'ai commencé à écrire deux, trois petits articles pour la version web de Mad Movies. Alors, pourquoi je te parle de ça? C'est parce que c'est à cette époque que j'ai fait la rencontre d'un type qui aura toute son importance un peu plus tard, qui s'appelle Bruno Provesa, et qui était le webmaster de la version web de Mad Movies. Alors, Bruno, il va même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il est rédacteur pour Mad Movies depuis d'ailleurs, je n'en sais rien du tout, mais depuis super longtemps. Et il est rédacteur plutôt spécialisé dans les jeux vidéo. Donc là commence à se dessiner quelque chose. Et donc on a sympathisé, on s'est jamais trop perdu de vue. Et puis moi j'ai vers la fin des années 2000, enfin 2009, 2008, je sais même plus en quelle année, 2008, je suis parti un peu à l'étranger pour des raisons professionnelles. Et puis quand je suis revenu, sais, quand tu pars un an, quand tu reviens, bon, bah, ça fait un peu table rase de toutes tes habitudes et de tout ce que tu faisais un peu avant. Et c'est vers cette période-là que j'ai découvert Merlan Free, donc qui est un autre site un peu spécialisé sur l'analyse pointue, on va dire, avec un style enfin, à la fois profond et littéraire que j'ai. Enfin, qui m'allait bien à cette époque-là, enfin, que j'ai trouvé plutôt frais. Enfin, je retrouvais ça nulle part autre. Il y avait des papiers une fois de temps en temps sur certains sites particulièrement anglophones, mais par contre sur la presse francophone, j'avais pas l'habitude de lire ça à propos du jeu vidéo. Des choses, il y avait toujours une manière de voir un angle qui me plaisait. Et une manière de redécouvrir un jeu, même qui ne m'avait pas plu. Je trouvais ça super intéressant. Et puis, donc, un site tenu par un mec que j'admire aussi énormément, enfin, que je respecte beaucoup, qui s'appelle Martin Lefebvre, et qui écrit particulièrement bien. Enfin, je suis assez fan de son style, et sur lequel, en fait, on retrouvait tout un tas d'habitués, dont Nicolas Turceff, dont tout un tas de mecs qui, d'ailleurs, depuis, écrivent des bouquins sur les jeux vidéo, bizarrement.
Oui, en fait, il y a vachement de plumes différentes et de bonnes plumes sur Merlan Free. Le forum est en plus sympa aussi. Moi, j'y suis de temps en temps. Je ne rentre pas dans les analyses. Et effectivement, comme tu dis, ça, il y a plein de profils différents, mais qui ont quand même des belles plumes. Enfin, il y a une réflexion. Et comme tu le dis, en fait, on a l'impression que c'est limite un incubateur de, pas de talent, mais pas loin, en fait. Parce que finalement, c'est des gens, comme tu dis, qu'on retrouve après à l'écriture de différents livres qui sont sortis, que ce soit chez Sœur d'édition, on va revenir, Pix and Love, qui écrivent après aussi. Pour le monde, puisque je crois que, si je dis pas de bêtises, William Oduro, il était aussi.
Ben voilà, ouais, par exemple, William Oduro, il est aussi passé par là. Enfin non, mais il y en a un sacré paquet, hein. Je crois qu'il y a eu aussi pas mal des rédacteurs de Carbone
Ouais, de Gamekult aussi, il y en a qui font des
ou
dossiers sur
de
Gamekult qui passent par
Gamekult
là,
aussi,
il
ouais,
me
tout à fait.
semble.
Ouais.
Donc ouais, non, il y a du beau monde.
Et ouais, le mot est bien trouvé, c'est effectivement, il y avait quelque chose de l'incubateur français, c'est assez rigolo que tout le monde se croisait un peu par là. Mais quelque part, enfin, c'est pas si étonnant que ça. Enfin, je veux dire, il y a des choses très très bien sur tout un tas de sites. Moi, enfin, à l'époque, je trouvais qu'il y avait des choses fantastiques sur ce site et qu'il y avait des gens qui écrivaient des choses vraiment vraiment super intéressantes.
Le côté analytique en plus, c'est quelque chose que, comme tu dis, sur la presse anglophone, on va plus trouver. Mais c'est vrai qu'en France, en tout cas à l'époque, au moment où ça se lance, moi je l'ai pris plus tard en cours, mais c'est vrai que tu n'en avais pas beaucoup en fait. Et tu n'avais pas même de bouquins encore. C'était pas les maisons d'édition comme c'est lancé maintenant, tu n'en avais pas beaucoup à l'époque. Donc c'était même assez inédit dans le paysage, en tout cas français, quoi.
Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, depuis, c'est assez rigolo d'ailleurs, hein, parce que là, bon, donc là, on doit être sans fact-checker les dates, on doit être à peu près en 2009-2010. Et à l'époque, ni Gamekult, ni personne n'avait encore ce genre de prose, hein, ou en tout cas, ne les affichait pas vraiment en première page. Ça fait pas si longtemps que ça. Et globalement, ça fait depuis qu'un certain nombre de ces types de Merlan Free. Bah, les ont rejoints pour pouvoir développer un peu ce genre d'angle dans la grande presse web du jeu vidéo. Donc à l'époque, c'est quand même assez frais. Et puis voilà, donc bah, c'est comme ça que j'ai renoué un peu plus avec le jeu vidéo. J'avais laissé temporairement le cinéma de côté. Mais j'avais quand même envie d'écrire quelque chose. Et surtout, il fallait que j'apprenne parce que globalement, j'avais fait de la pige, j'avais fait de l'article court. Voire de la news. Alors j'en ai tartiné je sais pas combien de centaines de kilomètres, mais un travail plus journalistique, plus analytique, ça j'avais jamais fait globalement, ou en tout cas j'en avais aucune prétention. En lisant, en apprenant beaucoup de Merlan Free, bon bah ça m'a donné envie aussi un petit peu de me jeter dans ce bain-là, alors timidement, parce que j'ai pas écrit grand-chose pour Merlan Free, j'ai dû faire 5-6 articles, quelque chose comme ça. Mais c'est des articles sur lesquels j'ai passé un temps fou. Et sur lesquels j'ai pu profiter des conseils de Martin, comme de Nicolas Turceff, etc. Donc, enfin, ou de Anthony Jouneau, des gens que j'avais lus et dont je trouvais la plume, enfin, des gens dont j'acceptais sans problème. Et légitimement les conseils.
Ouais, ça permet de te créer un peu ton style en fait, enfin de créer ton style et puis même de te former quelque part.
Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je pense que j'aurais pas pris des critiques. C'est difficile hein, de se remettre en question quand on écrit. En tout cas, pour moi, ça l'est. Ça l'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, ça l'est. Faut accepter les critiques. C'est quand même vachement plus facile quand les critiques elles viennent de gens clairement. Enfin, je veux dire, où
Que tu considères en fait.
t'es fatalement impressionné, quoi. Tu vois. Enfin, donc voilà. Bon, là, globalement, ça a été une bonne école pour moi. Et puis voilà. Donc ça s'est arrêté là, globalement. Et puis, j'avais toujours des contacts, pas forcément de manière courante, mais parcellaire avec Bruno Provezza via le forum de Mad Musiz. Et puis, en fait, il a, de son côté, alors lui, il commençait un petit peu à bosser avec les mecs de Pixel. Et c'est là qu'il a rencontré Mehdi et Nico, je crois. Donc, Mehdi El Ghanafi et Nicolas Coursier. Qui seront quelques années plus tard les fondateurs de Faire d'édition. Et ils vont faire un bouquin ensemble qui a en fait, j'ai cru comprendre qu'il avait été démarré par Mehdi et Nicolas, mais ils ont appelé à la rescousse Bruno parce qu'ils savaient que c'était un passionné, qu'ils savaient qu'il avait une bonne plume et qu'ils avaient dramatiquement besoin de lui pour boucler le bouquin en temps et en heure. Donc c'était un bouquin sur Resident Evil qui a été, je crois, de mémoire, le premier bouquin estampillé Faire d'édition en tant que tel. C'est-à-dire qu'avant Mehdi et Nico, ils avaient déjà écrit d'autres bouquins, ils en avaient écrit un paquet d'ailleurs, mais pour Pixel 9.
Oui, voilà, oui.
Pour Console Syndrome, puis Pixel 9. Enfin, il y a un truc comme ça. Bon, alors, je connais pas tout l'historique.
Oui, c'est ça. En fait, je crois que Pixel Love, ils étaient auteurs, et puis je pense même qu'ils n'ont pas dirigé des collections chez Pix. Et après, pour Syndrome, je crois que c'était une sorte de fanzine qu'ils avaient lancé déjà, qui a été un peu un précurseur de Sœur d'édition, en fait. Et après, ils sont passés au côté vraiment maison d'édition. Hein. Parce que c'est assez récent, je crois que Sœur d'édition, les années 2010, 2012, je crois, en fait. Si je dis pas, ou 2015. Hein. Attends, je suis en train. C'est 2015, il me semble.
Bon, 2015. Okay. Moi, ça me va. Hein.
Bon,
Ouais,
ok.
2015, c'est
Allez,
ça.
2015, c'est parfait. Au pire, il...
Bon, je pense que ce qu'il faut dire surtout, c'est que c'est une maison d'édition qui est basée à Toulouse. Voilà, ça me paraît très intéressant.
C'est exact. Oui, et puis surtout, ils
Donc.
ont vraiment enfin, développé, enfin, ça marche bien et tout ça. Maintenant, ils ont quand même vraiment... Ils sont quand même réputés, ils ont sorti quand même beaucoup de bouquins. Et puisqu'ils ont sorti plein de bouquins, que tu parlais de Bruno Provezza, justement, ils ont un des bouquins qu'ils ont sorti assez récemment, c'était l'an dernier, mais il a dû être commencé bien avant, ça tu vas nous en parler. C'est un bouquin qui a été coécrit donc par Bruno Provezza et par toi-même sur Uncharted, donc qui s'appelle Uncharted, Journal d'un explorateur. Est-ce que tu peux nous parler justement de la genèse de ce projet? Donc je suppose que c'est peut-être via Bruno que ça s'est initié.
Alors, ouais, en fait, donc on en arrive là. Il venait de boucler Resident Evil. Je crois que Bruno, direct, il a enchaîné avec un bouquin sur Silent Hill, donc coécrit avec Damien Méchelet. Donc ça devait être en 2016. Et c'est en 2016, alors c'est peut-être même en fin 2015, début 2016, que via forum interposé, alors je crois que Uncharted 4 n'était pas sorti, enfin c'est bien sûr. Et on se disait un peu, alors bon, deux gros fans d'Uncharted, on se disait un peu sur la sortie du bouquin, enfin sur la sortie du jeu, pardon, d'Uncharted 4. Et puis j'ai dû lancer à un moment, putain, j'écrirais bien un bouquin là-dessus, quoi, mais totalement innocemment. Et bon, bah évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que direct Bruno, il est allé tanner Mehdi et Nicolas, qui n'étaient pas particulièrement chauds au début. Pour Uncharted, ils avaient plein de licences en tête à l'époque. Hein, faut rappeler que Faire d'édition, ça venait d'apparaître. Ils avaient à leur catalogue propre 4 ou 5 bouquins, ça allait pas plus loin. Et ils avaient quand même un paquet de licences sur leur créneau qui est plutôt un public d'amateurs de jeux japonais, de RPG, des choses comme ça. Donc Uncharted, ça parle pas des masses. Et puis en plus, c'est un jeu très très grand public, plutôt décrié malgré ce qu'on peut penser, malgré son succès. Donc ils n'étaient pas particulièrement chauds et bon bah l'idée on est resté là quoi. Donc 2016 que je dise pas de bêtises, oui c'est ça, 2016 est passé et finalement c'est début 2017, donc tu vois il s'est passé plus d'un an entre l'idée tiens on va en causer aux éditeurs et puis l'éditeur te donne son go et puis alors là ça a été très vite, donc Bruno m'a recontacté en février 2017, il m'a dit, bah écoute, c'est parti, mais alors par contre, faut qu'on Enfin, il va falloir qu'on avance. On a moins d'un an. Il fallait qu'on termine le bouquin. Globalement, il fallait qu'on écrive le bouquin en 7 mois pour une sortie tout début 2018. Et voilà comment on en est arrivé là. Donc, alors pour moi, c'était plus que le baptême du feu. Pour Bruno, qui est déjà un vétéran de la question, c'était presque une routine. Bruno, c'est son métier. Il est auteur, pigiste, traducteur et maintenant maquettiste d'ailleurs. Mais pour moi, c'était carrément, c'était la grande aventure.
T'étais son padawan en fait.
J'étais complètement son padawan. Et je me suis complètement positionné comme son padawan, c'est-à-dire que tout ce qui tenait de la décision quant au bouquin, que ce soit sur l'angle, sur un chapitre, sur n'importe quel choix, j'apportais des idées, mais par contre, je me positionnais complètement sous le couvert de l'expertise de Bruno, et ma foi, j'ai bien fait parce que je pense que ça m'a beaucoup rassuré sur la rédaction du bouquin, qui s'est avéré plus fluide que je l'aurais imaginé.
Justement, en fait, en parlant du livre, quand vous écrivez à deux, en fait, c'est quoi les avantages? Et alors, il y a peut-être des inconvénients aussi. Donc, tu dis que tu t'es quand même suivi un petit peu. En fait, tu t'es formé avec Bruno sur la manière de faire un livre. Et justement, comment vous êtes partagé en fait parce qu'il y a différents chapitres sur ce livre-là. Vous êtes partagé des chapitres par quoi? Par affinité? Ou ça s'est passé comment en fait? Parce que je suppose qu'aussi quand vous faites un livre comme ça, il y a des recherches à faire. Il faut aller trouver des interviews, alors soit mener des interviews, soit les récupérer des interviews, ben en anglais tout ça. Comment ça se passe en fait un petit peu tout le travail, on va dire préparatoire avant l'écriture?
En fait, la première chose qu'on a été, mais qu'on est obligé, quel que soit le bouquin, et je peux pas imaginer que ça puisse se faire autrement, c'est de se demander ce que tu vas raconter dans ton bouquin, avant même de te demander ce que tu vas pouvoir te répartir, etc. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver, alors, un angle ou plusieurs angles, mais en tout cas, il va falloir trouver une manière de te positionner par rapport à ton bouquin. Alors, l'avantage, c'est que Ford Edition, ils ont déjà une espèce de mantra qui régit un peu chacun de leurs ouvrages. C'est la création univers décryptage. Donc, en gros, un premier gros chapitre sur tout l'aspect créatif du jeu, le développement, l'histoire du studio, blablabla. Un deuxième qui va explorer le lore et l'univers du jeu, pouvoir raconter toute l'histoire son exhaustivité. Et un troisième, donc analyse, décryptage. Alors là, c'est un peu la lettre ouverte, c'est-à-dire qu'on va essayer de ressortir soit la névrose des créateurs, soit d'essayer de comprendre quels sont les. Enfin, ce qui va un petit peu. Soit quels sont les éléments ludiques particuliers au genre, au jeu, à la série, soit les thématiques que les créateurs ont essayé d'explorer. Bon, alors ça, l'avantage, c'est qu'on a déjà un squelette quand même. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire que encore une fois, avant de pouvoir se répartir la tâche, il y a un énorme boulot qui est absolument monstrueux, qui va être la collecte documentaire. C'est-à-dire que là, bah, effectivement, comme tu l'as si bien dit, on va alors soit tenter d'avoir des interviews. Alors, j'en reparlerai, mais alors, ça, c'est une vraie tannée. Je t'expliquerai pourquoi. Sonder les tréfonds d'Internet et voir de la littérature vidéoludique existante pour amasser le plus de documentation possible, mais avec tous les risques qu'on connaît, c'est-à-dire que, et je pourrais en parler dans le cadre de mon cahier d'exemple, mais que 50% des sources, on est dans de la fake news totale. Donc, voilà, en gros, le cœur balance entre de l'info. Dont t'es pas trop sûr de l'origine, plus ou moins sourcé, plus ou moins anglais en fonction du pays où tu le tiens, et puis des difficultés à avoir des interviews. Alors, les difficultés à avoir des interviews, c'est d'une, est-ce que les développeurs sont atteignables? Alors, je vais être très clair, nous, dans le cas d'Uncharted, on n'a eu que dalle. On n'a rien eu. Enfin, Naughty Dog, comme Sony, c'est les grosses machines, les seuls à qui tu peux parler ouvertement, c'est les services com, les PR, enfin, la relation presse, et autant te dire que le discours, c'est du formatage total. Heureusement, il existait pas mal d'interviews, de grosses interviews sur les grosses thématiques qu'on voulait avoir, et il y avait déjà pas mal de fonds documentaires. Au final, en recoupant, par exemple, moi, je me suis occupé de l'histoire du studio, de ses créations jusqu'au développement du premier Uncharted. Enfin, j'ai pas eu de mal à trouver de l'info. C'était pas sur les aspects de création qu'on allait avoir du mal. Et donc, vu qu'on savait qu'on n'allait pas avoir beaucoup d'interviews, on savait à peu près comment allait être notre angle. C'est-à-dire que lorsqu'on allait rédiger cette partie création, on ne pouvait pas faire intervenir ou très peu la parole des développeurs ou la parole des créateurs, la parole d'Amy Henning, de Balestra, etc. La deuxième difficulté quant aux interviews, c'est que entre le moment où tu vas avoir accès au développeur et donc que tu vas avoir son OK, pas de souci, envoyez-moi vos questions, et le moment où il va te répondre, généralement, alors il peut se passer 2 jours comme il peut se passer 6 mois. Mais sauf que 6 mois, 6 mois, c'est beaucoup trop dans le temps de rédaction d'un livre. Et dans ce cas-là, il est probable que toi, tu aies déjà commencé malgré tout à écrire les parties concernant les éléments que pouvait éventuellement t'amener tel ou tel développeur, mais qu'au moment où il te répond, le truc casse complètement le boulot que tu avais fait parce qu'en fait, tout ce que tu avais écrit, c'était pas pertinent ou c'était pas très précis, etc. Donc, c'est un boulot de va-et-vient entre essayer de courir après les interviews, essayer d'obtenir les réponses, il faut les tanner, il faut pas les lâcher. Enfin, c'est un sport incroyable, hein. Et ça, tu épuises une énergie de dingue là-dessus. Donc voilà les problématiques.
D'ailleurs, en plus, ce que tu dis par rapport à Uncharted, c'est que, contrairement à Monkey Island, et je pense que c'est peut-être ça qui a favorisé, c'est qu'en plus, c'est une licence qui était récente, et quand vous commencez à écrire le livre, en fait, elle n'est pas bouclée, la licence. C'est-à-dire, le 4, il va sortir, ou il vient à peine de sortir, et ils sont encore sur Lost Legacy, donc c'est pareil, t'as pas de recul suffisant. Après, comme tu dis, l'avantage, c'est vrai que pour le cas de Naughty Dog et de cette saga-là, t'as eu quand même pas mal de. T'as eu plusieurs livres d'artwork qui sont sortis avec des infos, t'avais des making-of, donc bon, ça te permet de trouver des trucs, mais effectivement, comme tu dis, c'est pas une info que t'as directement en fait, c'est plus par des autres supports.
Ouais, en fait, on avait beaucoup d'infos très très corporate. Ça, on en avait à gaver, tu vois. Et d'ailleurs, ça ressemble bien à Naughty Dog.
Oui, c'est genre, ah, c'était génial, on a adoré. Amy Henning, elle a quitté le studio, elle avait le sourire aux lèvres, elle était tellement heureuse de partir en plein milieu du développement de Uncharted 4, tu vois.
C'est complètement ça. Ouais. En fait, au moment où on a écrit le bouquin, Uncharted 4 était bouclé. Ils étaient dans le développement de Lost Legacy. Et en fait, à partir de la sortie de Lost Legacy, de mémoire, il est sorti tout début septembre. Et
Fin août de 2017, je crois.
ouais, fin août, début septembre, fin août, ouais, c'est ça. Donc, on s'est jeté sur le jeu évidemment à sa sortie. On l'a plié, replié, essoré dans tous les sens, et on a rushé l'écriture de la partie propre à Lost Legacy. En 2 mois, on a eu 2 mois pour traiter uniquement de Lost Legacy, ce qui était plutôt confortable. Mais par contre, avec un manque documentaire probant, hein. Le jeu venait de sortir, et là, pour le coup, il n'y avait vraiment que du corporate de fou.
Ouais.
Et effectivement, malgré tout, nous, alors, ça, c'était clair entre nous, à Bruno et moi, c'est qu'on n'avait pas envie de faire un bouquin corporate. Enfin, je veux dire, on a l'avantage chez Ferd d'avoir cette liberté incroyable de ne pas faire un bouquin officiel. Alors, faire un bouquin officiel, c'est chouette, parce qu'on peut mettre plein de visuels dedans. Et j'adorerais faire cet exercice, mais par contre, quelle frustration, enfin, je veux dire, d'écrire une espèce de papier pour la presse, quoi, enfin, à destination de la presse, enfin, du papier commercial.
Oui, comme certaines critiques de jeux vidéo qu'on voit sur des sites, par exemple.
Bon, sans les nommer, hein. Moi, je balance jamais.
Non, mais je veux dire, c'est pas pour me moquer de qui que ce soit.
Je plaisantais.
C'est malheureux. Non, mais c'est vrai que c'est malheureusement une pratique. On le sent en fait. Et il faut dire ce qu'il y a. Des fois, c'est vraiment de la relation presse limite, quoi. Et les news, c'est encore plus. Tu sais, quand t'as des news, c'est limite du copier-coller comme ça, de pillard, quoi.
C'est du publi rédactionnel, c'est-à-dire que, enfin, on arrange plus ou moins les communiqués de presse filés par les éditeurs, et puis voilà. Et là, on a, enfin, un bouquin comme on a pu faire sur Uncharted, mais comme tous les bouquins de cette maison d'édition, l'avantage, c'est qu'on peut raconter ce qu'on veut à partir du moment où c'est vrai, et on peut analyser et critiquer sur les là où ça peut faire un peu mal, quoi, hein, et là où il y a du questionnement. Donc, on n'avait évidemment pas envie de se conforter à ça, et donc ça a été la grosse difficulté. Hein, et je trouve qu'on s'en est, alors, avec grande humilité, hein, mais je trouve qu'on s'en est pas si mal sorti, dans un contexte de verrouillage aussi incroyable que puisse l'être la com de toutes les boîtes de chez Sony. Parce que alors, c'est vraiment, vraiment très complet.
Ouais.
Et on le sent même sur tous les papiers critiques. Enfin, je veux dire, une histoire comme cette histoire qui est arrivée à Amy Hennig, dans n'importe quel autre studio, j'imagine même pas que aucun élément n'ait pu fuiter. Et ben là, c'était le cas. Enfin, je veux dire, on était devant une espèce d'omerta totale qui nous simplifiait pas du tout la tâche, quoi. Et c'était pareil à une époque où, il y a 3 ans, où on parlait pas encore de crunch, enfin, où en tout cas, on n'en parlait pas beaucoup et on s'intéressait pas forcément énormément. En tout cas, le public ne s'intéressait pas encore énormément à la question. Et nous, c'est plus on investiguait et plus, enfin, surtout Bruno pour cette partie-là, et plus il découvrait que Naughty Dog, c'était à la fois développeur qu'on connaît et créateur des jeux qu'on a le droit d'adorer, mais par contre, une usine à broyer des développeurs. Donc voilà, enfin, au final, on s'en est pas si mal tiré.
Bah ouais.
Et comment on s'est réparti la tâche? Eh ben, écoute, comment on s'est réparti la tâche? C'était pas compliqué. Bruno avait absolument pas envie de bosser sur la partie histoire et lore. Donc, du coup, je m'en suis occupé.
Et qui est une partie qui est géniale. Tu sais que je crois que c'est ma partie préférée du bouquin, en fait. Et c'est génial parce qu'effectivement, tu vois, quelque part, les infos que tu as sur les studios, comme tu dis, surtout quand c'est verrouillé, c'est des choses que tu peux retrouver dans les articles. Mais après, des analyses au niveau du jeu, ben après, chacun aura, suivant sa subjectivité, une analyse à faire du jeu. Mais le côté historique, c'est vraiment passionnant parce que quelque part, Uncharted, c'est, enfin, dire le point de départ, c'est toujours ce truc-là. Donc effectivement, c'est une partie qui était passionnante d'aller voir en fait qu'est-ce qu'il y a comme réalité historique derrière, eh bien, toute cette mythologie qui a été développée, ben, pour le jeu. Et donc c'est une partie que moi que j'avais adorée. Et alors on va pas rentrer plus là-dedans, comme ça ceux qui liront le livre, parce que je leur conseille vraiment de le lire. D'ailleurs sur la chaîne j'avais fait une critique, enfin en tout cas un avis sur le livre que j'ai beaucoup adoré, ben, comme tout ce qui touche à Uncharted. D'ailleurs il faut préciser que c'est de connaissance le seul livre comme ça sur Uncharted en fait. En France, même aux États-Unis, j'en ai pas vu. Il y a dû y avoir des articles, des revues, mais pas de bouquins.
Oui, c'est le là, je confirme, c'est le seul encore aujourd'hui qui a été fait sur la série. Vu que la série est au repos actuellement, je doute qu'il y ait d'autres ouvrages sur le sujet, enfin, en tout cas qui essaient de travailler sur l'ensemble, c'est-à-dire sur ces aspects-là, hein, création d'univers et un peu d'analyse. Bon, si la série revient un jour, pourquoi pas.
Il a été traduit déjà en anglais ou pas? Tu sais si oui, s'il va l'être, t'es au courant?
Alors, il a pas été traduit et je sais pas du tout si c'est prévu. Je sais pas dire.
Voilà. Bah, en tout cas, bah, pour ceux qui nous écoutent et donc qui lisent en français, si vous aimez la saga, enfin, c'est un livre que je conseille totalement. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, tu proposes d'en faire gagner deux. Tu m'as dit par la chaîne, deux livres là-dessus. Tu me confirmes?
Bien sûr. Hein. Ouais,
Donc
bah
voilà.
écoute,
Donc.
c'est toi qui organiseras tout ça.
Ben, je sais pas encore du tout comment ça va se passer. Je pense qu'en fait, je poserai une question de quelque chose que tu vas dire pendant l'entretien qu'on a aujourd'hui. Et comme ça, ben, en fait, c'est ceux qui auront écouté l'entretien qui comment s'appelle, qui pourront jouer pour le gagner et donner la bonne réponse. Donc ça sera peut-être une question sur les Kaiju Ega, où on verra. Je sais pas du tout, tu vois, un truc comme ça. Et donc c'était la parenthèse pour ce truc-là, mais je communiquerai sur les réseaux sociaux. Pour avancer un petit peu, donc ça c'était le premier livre donc, qui est sorti récemment, hein, l'année dernière. Et donc, quelque part, pas de repos pour les braves. T'as enchaîné de suite donc avec un livre qui, quand on se parle à l'heure actuelle, n'est pas encore sorti, mais quand les auditeurs auditrices qui nous écoutent, ben, le livre sera sorti. C'est un livre sur Monkey Island, célèbre licence là aussi. D'ailleurs, tu passes de Uncharted où il y avait côté pirate dans le 4 à Monkey Island. D'ailleurs, il y avait le personnage de Monkey Island qui faisait un caméo dans Uncharted. Donc, en quoi finalement tout est lié, hein, tout ce côté-là, piraterie. Peut-être revenir sur la piraterie. Je sais que c'est un sujet que t'aimes beaucoup. Donc, comment ça s'est passé ce projet-là en fait?
Alors en fait, alors le bouquin Uncharted, on a terminé les corrections, etc. Parce que alors, même une fois que tu as terminé le bouquin, il restait énormément de boulot hein, en termes de relecture de la part de l'éditeur, de la part des correcteurs. En plus, sur Uncharted, on a eu cette particularité qu'il a fallu fact-checker toutes les conneries que j'avais fait sur la partie historique, puisque par chance, et je la remercie, je ne cesserai de la remercier, la correctrice du livre sur Uncharted, enfin une des deux correctrices, une fille qui a fait des études d'histoire et ça tombait plutôt bien, notamment sur certains thèmes qui sont abordés dans le bouquin. Et donc, qui m'a sévèrement fact-checké et vérifié pas mal d'infos. Donc, on a eu énormément d'échanges, pas mal de boulot, et au final, ça nous a amené jusqu'à.
D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux, mais si tu peux citer les noms des gens, parce que je trouve que c'est bien aussi d'expliquer que dans un bouquin, il n'y a pas que les auteurs, en fait, il y a les éditeurs, il y a les maquettistes, il y a les correcteurs, et je trouve que c'est bien de mettre ces gens en valeur, parce que souvent, en fait, c'est des noms qui sont sur les livres, mais qu'on ne regarde pas suffisamment. Et même il y a des illustrations, tu peux parler des illustrateurs, mais...
Ouais, c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler des illustrateurs, enfin des illustrateurs de couverture, notamment chez Ford, parce qu'ils en font un peu leur credo, et des auteurs, mais derrière, tu as un taf. Bon, alors ça dépend des bouquins, ça dépend aussi probablement des auteurs, mais tu as un taf de fou qui est fait par des correcteurs. Enfin, voilà, bon, là en l'occurrence c'est Zoé. Enfin, voilà, bon, je n'entrerai pas plus dans le détail, mais en tout cas, ça a été des échanges passionnants, tu vois, et que j'aurais jamais pensé aussi pointu sur des détails historiques. Enfin, c'était cool, quoi. Mais ça, c'était cool. Par contre, ça a duré, c'était une espèce de marathon qui a duré un mois et demi, bien stressant, et ça nous a amené jusqu'à fin novembre, donc 2017, pour une sortie du bouquin en février 2018. Donc on a eu, enfin j'ai eu 3 4 mois de répit entre le moment où on a arrêté de bosser sur Uncharted et le moment où on a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Et en fait c'est Nicolas Coursier de Faire d'édition qui est revenu vers Bruno et moi pour nous proposer un autre projet. Donc un projet sur un bouquin. Alors, qui s'est pas fait pour la simple bonne raison, donc sur une autre série de jeux vidéo, alors je ne citerai pas parce que il n'est pas impossible que ce soit dans les tuyaux de Ferb, mais ça s'est pas, ça aurait pu se faire, mais ça s'est pas fait pour la simple bonne raison que Bruno avait, parce que Bruno travaille pour pas mal d'autres, alors éditeurs, il fait beaucoup de traductions et sur le timing qui nous était imparti, c'était pas faisable. Donc, Bruno n'était pas forcément dispo. Et il pouvait se donner la possibilité de bosser, mais sur des délais nettement plus longs. Donc du coup, je me retrouvais orphelin. Et orphelin sur la série que je ne nommerai pas en question, ça le faisait pas. Enfin, je le sentais pas du tout. Et donc bon bah du coup, je leur ai direct proposé. Enfin, ils m'ont dit bon bah ok, ça ne branche pas. Enfin, pas de le faire tout seul, mais bon, on reviendra vers toi et tout. Et puis bah moi direct, j'aurais proposé Monkey Island. Là, pour le coup, je le sentais bien tout seul, que j'étais un fan complet, et que j'avais pour le coup énormément pré-mâché la partie recherche documentaire, pour la simple bonne raison que alors tu vois, chez moi, j'ai pas beaucoup de jeux vidéo. Pour le coup, je suis pas un collectionneur du tout. J'ai pas énormément de boîtes. J'ai pas énormément de bouquins sur les jeux ou quoi que ce soit. Je n'en ai quasiment pas. Mais par contre, tout ce que j'ai à ce niveau-là, bah ça, c'est du LucasArts, quoi. Donc c'est des bouquins sur Lucas, c'est sur l'histoire de ces mecs-là, c'est des mecs que j'ai jamais lâchés. J'ai tout le temps été un lecteur assidu des principaux sites et voire acteurs de Mixenmojo ou du Scumbar, qui sont des sites spécialisés assez connus pour les amateurs. Donc, pour le coup, j'étais ultra sûr de moi. Enfin, je me disais bon, bah c'est cool, j'ai déjà une bonne assise documentaire. Je sais vers quoi je vais. Je sais que je vais trouver de l'info. À cette époque, j'imaginais pas encore que non seulement j'allais trouver facilement de l'info, mais qu'en plus j'allais carrément trouver tous les développeurs. Donc, bon bah au final, j'étais confiant pour le faire tout seul. Et puis très motivé. Pour le coup, signer un bouquin de Monkey Island tout seul, ça tenait du fantasme total pour moi. Tu vois. Et puis, 2 3 semaines après, ils m'ont dit banco et c'était parti. Et puis on a démarré. Donc j'ai démarré globalement le bouquin Monkey Island. J'ai dû démarrer en mars de l'année dernière.
Ouais, donc ça fait voilà le temps de tout rédiger. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé d'ailleurs de Nicolas et de Mehdi. Justement, pendant la rédaction et tout ça, comment se passent si tu peux raconter comment se passent les échanges avec les éditeurs, s'ils te regardent, s'ils donnent des trucs, histoire d'expliquer un peu comment ça fonctionne à ceux qui connaissent pas comment fonctionne en fait le système de l'édition et de l'écriture d'un livre en fait, parce que quand tu fais un truc comme ça, il faut pas croire que t'es pas non plus lâché dans la nature. Sur l'île de la mêlée, à te balader et picoler du rhum.
T'es pas du tout, du tout, du tout lâché dans la nature, hein. Pas du tout. Enfin, l'éditeur est tout le temps là. Alors, en plus, alors, ça va faire très corporel ce que je dis, hein, mais quand c'est des mecs aussi cool, et enfin, je veux dire, qui ont un sens du consensus, une certaine habitude, une certaine aisance, comme Nico, Mehdi ou même Damien, enfin, c'est du tout confort. Enfin, c'est-à-dire que bon. Dans la rédaction, enfin, c'est quand même un projet d'un an. Enfin, c'est-à-dire que écrire un article, c'est un exercice particulier. Une pige, c'est un exercice particulier. C'est dans un temps donné, on peut se prendre la tête, hein, sur un article. On peut se prendre la tête pendant une semaine, sans problème. Mais temporellement, c'est maîtrisé, c'est court, ça va. Enfin, je veux dire, on en sort. On va pas faire une dépression pour ça. Travailler un an. Quand c'est pas ton boulot, c'est-à-dire que bon, moi j'ai quand même une activité professionnelle à côté, donc c'est sur tout ce que on pourrait considérer comme mon temps libre. Enfin, c'est un vrai deuxième travail. Et donc t'as besoin, enfin t'as besoin d'un psy, tu vois. Et ben là, bon, t'as pas de psy, mais t'as un éditeur. Et donc eux, alors comment ça se passe concrètement? Et je pense que c'est la même chose dans la, enfin que ce soit chez Pix ou Ferd ou les autres, c'est-à-dire que bon, l'éditeur il intervient à des moments clés du livre, le premier étant la définition du plan du livre, c'est-à-dire que bon, il te lâchera pas te lancer dans la rédaction si le plan il n'est pas verrouillé, il faut qu'il soit en accord avec le plan. Au final, c'est presque plus le bouquin de l'éditeur que le bouquin de l'auteur, hein. Donc je veux dire, si potentiellement il n'était pas d'accord avec le plan, bon, il y aurait des discussions, etc. Hein, il n'y a pas une fermeture immédiate, mais en tout cas, le dernier mot, ça doit être celui de l'éditeur.
Oui, c'est le boss du projet dans tous les cas, de toute manière, hein, un éditeur.
Ah, c'est lui qui injecte les sous, hein, maintenant, parce que bon, alors, enfin, sans parler plus que ça des sous, enfin, eux, ils en vivent, hein, c'est-à-dire que eux, c'est leur boîte, ils font vivre des gens avec. Il y a tout un écosystème, comme tu le disais tout à l'heure, hein, il n'y a pas que des auteurs ou des éditeurs, il y a aussi des illustrateurs, il y a aussi des maquettistes, enfin, il y a toute une économie derrière. Donc, enfin, pour eux, un bouquin, c'est quasi vital pour la société.
Oui, parce qu'en fait, là, tu parles de la société à l'intérieur, enfin, intra-sociétaire, mais en fait, si tu veux après regarder extra, ce qui coûte le plus cher aux éditeurs, en plus, ça va être tout ce qui va être après la distribution, la diffusion. Ouais. C'est les mecs qui, donc,
Bah,
effectivement, oui.
l'impression, la création en tant que telle du livre, et puis la distribution, évidemment. Sur le prix de vente d'un bouquin, j'ai aucune idée de combien touche l'éditeur, tout ça, enfin, de la part des choses. Mais c'est sûr que si vous achetez votre bouquin à 25 balles, c'est pas 25 balles qui vont dans la poche, ni de l'auteur.
C'est pour ça d'ailleurs qu'avec l'arrivée du numérique, d'ailleurs chez Sird maintenant ils proposent aussi les livres en numérique pour les e-books, et ça permet effectivement là d'impacter en fait, de pouvoir mieux répartir en fait les finances, puisqu'en fait t'as pas ce côté distribution qui est différent en fait. Et ça permet, je pense que ça permet aussi de soulager aussi financièrement en règle générale
Après tout,
la...
les ventes en numérique, elles sont quand même relativement petites. Enfin,
C'est complémentaire.
enfin, je veux dire, c'est typique du marché sur lesquels sont les bouquins de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on est autant sur un marché livre que sur un marché objet. Donc les gens veulent l'objet. Enfin, j'ai absolument aucun doute sur le fait que beaucoup de monde achète ces bouquins par collectionnite et qu'il y en a probablement un peu moins qui les lisent.
Bah, alors tu
Donc.
sais quoi? Je vais te dire, si je tourne la tête et que je regarde les livres Sird que j'ai chez moi, là je vais te citer, j'ai BioShock, Fallout, Half-Life, Zelda, Mass Effect, Skyrim, Uncharted. J'ai revendu, tu vois, parce que je l'avais à peine touché, Silent Hill. Et effectivement, le Half-Life, le Zelda et le Fallout, je les ai pas encore lus, tu vois. Donc, mais voilà. Ils sont beaux sur mon étagère, et quand je fais mes vidéos, je les mets bien en avant en me faisant le mec. Et t'as vu, c'est comme quand t'avais des DVD, que t'achetais des DVD de Griffith, là, tu sais, aux naissances d'une nation, ou t'achètes du Murnau et tu les as pas forcément tous vus, ou les films de Bellatar, mais ça fait bien, ça fait le mec cinéphile, tu vois. Ben là, c'est pareil.
Voilà, c'est très joli d'avoir une belle bibliothèque, tu vois. Je pense que ça légitime un gamer, tu vois, il est content d'avoir quelques livres avec du vrai papier dedans. Non, alors, enfin bon, on est un peu dans le cliché, mais néanmoins, je pense que c'est vrai, et je pense que ça explique partiellement pourquoi le marché de l'e-book du numérique dans cette niche-là doit être vraiment minime.
Ouais.
Je veux dire, avant tout, les gens achètent. Alors, ils achètent aussi un bouquin, mais ils achètent un objet. Et c'est pour ça que Ferd essaie de faire de beaux objets.
Ouais, mais ce qu'il faut préciser d'ailleurs, c'est qu'avec Sœur d'édition, on va croire qu'on est payé par eux. Enfin, toi, t'es payé par eux techniquement, mais pas moi. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même l'option premium où quand t'achètes un livre avec on va dire, la version collector, t'as la couverture normale, t'as une surcouverture qui est collector, t'as un ex-folio, et en plus t'as la version numérique qui est offerte avec l'achat. Donc ça fait vraiment un super bel objet. Et là, ils se sont lancés très récemment aussi dans maintenant les ventes de. Et d'ailleurs, ça va commencer avec ton livre d'ailleurs, et Monkey Island, les ventes d'affiches. Donc effectivement, comme tu dis, il y a vraiment un côté objet collector, et je pense que c'est ça aussi qui font que ça se démarque, et que c'est, voilà, comme tu dis, c'est important en fait d'avoir, surtout quand tu es dans un, parce que le jeu vidéo, ça reste quand même encore, même si ça se développe, un domaine de niche, en tout cas au niveau des beaux livres, et donc ça te permet justement de consolider, et justement d'appeler sur le côté collectionneur, parce que en général, le gamer qui aime les beaux livres, c'est aussi celui-là qui va aimer acheter ses collectors en boîte et tout ça, tu vois, c'est souvent lié.
Bah, en tout cas, c'est leur credo. Alors, ils le font. Je pense, hein, parce que je parle, j'ai pas trop envie de parler à leur place, mais je pense qu'ils le font évidemment par sensibilité commerciale, parce qu'ils savent que effectivement, ça va parler à leur public. Mais ils le font aussi parce qu'ils adorent ça. Enfin, je veux dire, ils adorent les bouquins, les connaissant un petit peu. C'est des amoureux des beaux livres. Ils ont envie que leurs livres soient beaux. Enfin, tu vois, et ils ont envie de proposer ça. Ils se défoncent, hein. Il faut voir comment ils se défoncent pour choper des illustrateurs, à quel niveau ils ont mis leur choix sur le papier, etc., etc., sur la maquette. Enfin bon, donc ils auront envie effectivement de donner un écrin de qualité et de pas se foutre de la gueule de l'acheteur.
De toute façon, tu le sens, un éditeur, suivant les bouquins que tu as dans les mains, tu sens toujours l'éditeur qui fait ça pour faire son stock, ou celui-là qui aime vraiment, et ça se sent. Enfin, ces livres-là, j'ai envie de dire, ils transpirent vraiment l'amour à la fois pour le médium, jeu vidéo, mais à la fois l'amour pour l'objet livre, quoi. Tu le sens directement, quoi.
Absolument. Pour revenir sur la question que tu me posais initialement, donc, qui était là où influe l'éditeur, je te dis, enfin, en gros, au début, il influe sur le plan, donc qui est quand même une partie ultra cruciale. Qui peut éventuellement dévier au cours, mais toujours sous l'aval de l'éditeur. Et puis à la fin, une fois, tu dois rendre ton bouquin, tu sais, il y a une date de sortie prévue, tu dois le rendre 4-5 mois avant. Et là, tu vas avoir une intense séance de relecture, de discussion, de coupe, de réécriture, etc., etc., qui peut durer 2, 3, 4 mois en fonction d'à quel point tu t'es foiré. donc c'est enfin voilà là où intervient l'éditeur, ce qui est déjà pas mal, mais ça a l'air très très stalinien comme ça, mais néanmoins tout se passe dans la discussion.
Ouais.
Il faut, enfin, on arrive toujours à convaincre d'une bonne démarche ou de quelque chose d'assez exotique ou original.
Justement, en fait, alors, et avant vraiment de parler de Monkey Island, alors je précise de suite, comme le livre, quand on se fait, enfin là, quand on va écouter, vous allez écouter l'émission, en fait, le livre sera sorti, donc on va pas parler de ce que ça raconte, parce que le but, c'est qu'ils découvrent aussi le livre. Ça va être plutôt tout ce qu'il y a autour, comme tu dis, les rencontres avec peut-être les développeurs ou l'aspect making of. Juste avant de parler de ça, j'ai juste une question, parce que c'est quelque chose que tu avais mis sur le tapis au début de l'émission. Justement, est-ce qu'après avoir fait le livre sur Uncharted, t'as dépassé ce côté, tu sais, parce que en tant qu'auteur, moi c'est pareil, je l'ai aussi au début. Tu sais, comme tu dis, ce problème de légitimité où tu dis en fait ce que je suis légitime à écrire, alors de manière à écrire, et là en plus sur un sujet où les gens peuvent aller vérifier, comme tu dis, faire du fact-checking, les sources. Justement, est-ce que ces questionnements, ils s'étaient commencé à avoir été, t'avais répondu à ça, ou tu te sentais quand même beaucoup plus à l'aise? Je suppose que t'es parti en solo, c'est que tu te sentais plus à l'aise aussi, que t'avais les reins solides. Mais justement, est-ce que t'avais, ou tu te posais encore cette question de légitimité?
Non, mais le fameux syndrome de la légitimité, je crois que de toute manière, ça, une fois que tu te l'es pris dans la gueule, tu l'as tout le temps. Enfin, c'est-à-dire que, bon, après, ça dépend probablement du caractère des personnes. Moi, en l'occurrence, j'ai plus une nature à me remettre en question continuellement et je ne me sentirai jamais légitime de quoi que ce soit. Donc, en tout cas, j'ai toujours l'impression de devoir faire mes preuves. Donc, ça y sera toujours. Ce qui a changé entre Uncharted sur Monkey Island, c'était plus ma capacité à mener un projet d'un an à son terme et à tenir des délais et à savoir produire, à déjà avoir une qualité d'écriture. Alors là aussi, je suis ultra autocritique, c'est-à-dire que bon, je absolument, enfin, moi, je sais pas me relire. Enfin, c'est-à-dire que dès que je me relis, je trouve ça nul. Tu vois, donc
Ouais.
il faut que j'ai un regard extérieur. Enfin, c'est bon, voilà, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui arrivent à avoir une certaine distance entre ce qu'ils écrivent. Bon, ce sont ces choses-là qui ont peut-être un peu changé. C'est-à-dire que je savais que j'allais pouvoir m'organiser personnellement de telle manière pour réussir à gratter un certain nombre de signes. Parce que je savais que me lancer dans l'aventure tout seul, ça allait être globalement entre 500 000 et 1 million de signes tout seul. Et voilà, donc logistiquement, je savais que j'étais déjà beaucoup plus sûr de moi. Et puis je savais vers quelles difficultés j'allais me tourner aussi. C'est-à-dire que pendant un an, tu as des gros blancs de solitude. C'est quand même un taf ultra ingrat. Enfin, tu es devant ton ordinateur. Enfin, c'est pas comme si tu allais faire des reportages à l'autre bout du monde, hein. Donc c'est quand même très particulier. Donc là-dessus, j'étais rassuré, je savais vers où je vais aller. Par contre, le problème de la légitimité, pas du tout. D'ailleurs, c'est assez marrant que tu parles de ça parce que je me faisais la réflexion il y a 2 jours ou 2, 3 jours. Enfin, en gros, la couverture de la first print, enfin de l'édition collector là, du livre sur Monkey Island signé Steve Purcell a été dévoilée par l'éditeur. Et donc, du coup, alors vu que c'est Steve Purcell, que c'est un des artistes, on va dire, légendaires liés à la série et à LucasArts, ça a vite pris son envol un peu sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et pour arriver sur quelques sites américains. Enfin, sur lesquels j'étais assez fébrile de savoir comment ils allaient recevoir la nouvelle. Et là, je me suis pris le pan de la légitimité dans la gueule, c'est-à-dire que globalement, les premières réactions de ces fameux sites américains, c'était de se dire, mais qui c'est cette espèce de français énergumène qui écrit sur notre série fétiche à nous
J'ai vu passer des retweets avec les articles, effectivement, j'ai pensé à toi. Je crois que je t'ai envoyé un message à ce moment-là, d'ailleurs, il me semble. Mais
C'était assez atroce, mais c'est normal, hein, je veux dire. Alors il y a le côté de la légitimité, et puis en plus il y a le côté où tu vas toucher au cœur des fans, quoi. Enfin, je veux dire, tous les jeux, toutes les séries ont leur communauté, et il faut un sens du consensus extraordinaire pour réussir à passer entre les balles et les critiques, même les plus. Enfin, il faut pas être à fleur de peau, hein. Et moi, à la sortie du bouquin, je serai forcément à fleur de peau. Voilà. Donc la légitimité, rien du tout.
Bon après t'auras les psy éditeurs qui seront là pour t'aider, mais comme tu dis, le problème en plus effectivement avec les communautés, c'est que, et si tu le vois partout, mais chaque fan en fait a l'impression d'être tes co-créateurs, mais ils ont l'impression d'être responsables et dépositaires de quelque chose, donc forcément évidemment après ils ont tendance à s'enflammer.
Absolument.
Et
Voilà.
vu que c'est la mode en ce moment, j'ai l'impression, avec le printemps, ça bourgeonne, t'es pas à l'abri d'avoir des pétitions, des mecs qui vont dire on veut changer le livre et tout ça, parce que les mecs ils veulent tout changer avec des pétitions, tu sais. Donc alors qu'en fait quand il y a des pétitions comme ça, au lieu de vouloir tout changer, une série télé, le design d'une créature type Sonic ou un acteur, t'as envie de leur dire mais les gars, en fait, vous écrivez. Proposez vos projets, créez vos films, créez allez faire l'acteur, allez faire vos trucs, faites des fanfictions si vous n'êtes pas content, mais créez en fait. Moi, dès qu'il y a une pétition contre quelque chose de créatif, même si je suis pas en accord, ça c'est un truc qui me fout toujours hors de moi parce que je me dis, mais mec, si tu t'aimes pas, ben fais. En fait, c'est tout en fait. Il n'y a pas donc bon, mais je sais que ça va pas t'aider si toi en fait, je comprends très bien ton problème là, mais bon.
On verra s'il lance une fatwa ou pas, mais bon, globalement,
On va taper Salman Rushdie du jeu vidéo.
C'est ça. Mais c'est bon, c'est ça, c'est des cas de conscience très personnels. Hein, je veux dire, après, on parle quand même de livres de niche qui concernent des communautés de fans relativement réduites. Mais quand on écrit pendant un an toutes ses tripes dans un bouquin, comme ça a été mon cas sur Monkey Island, clairement, on est fébrile. Hein. Enfin, la sortie, je te cache pas que tu. Je sais même pas si je vais me connecter sur les réseaux sociaux pendant une semaine. Enfin, je pense que ça va être compliqué. Mais et j'attendrai fébrilement les premiers retours des premiers lecteurs.
Bon, mais on t'inquiète pas, on va créer une garde rapprochée. Hein.
Surtout que je peux pas déflorer le truc, mais il y a quand même quelques petits angles dans le bouquin qui pourraient chez les plus grands fans de Monkey Island, et Dieu sait que je les connais, les déranger un petit peu. Mais écoute, tant mieux.
Ah, ça c'est la partie où tu dis qu'en fait la version de Telltale, elle était super bien, elle était mieux que certaines anciennes versions, c'est ça?
C'est une partie dont je ne parlerai pas, mais on pourra en reparler à la sortie du podcast si tu
On verra. Bon,
veux.
c'est pas le but. Par contre, justement, ce qu'il y a autour, tu vas pouvoir en parler parce qu'il y a un truc qui est très sympa pour ceux qui te suivent. Alors, comme d'habitude, dans chaque émission, ton Twitter, je le mettrai en lien parce qu'il y a un truc que tu as fait qui était quand même vraiment sympa où tu teasais avant même l'annonce. Hein, c'est que quelque part, tu as fait une sorte de making-of du livre ou du moins avec toutes les sources où tu fais des threads sur Twitter où justement tu mets des artworks, des illustrations et ça permet de découvrir un peu tout ça, les dessous. Et je trouve que c'était vraiment. C'est à ça que ça sert un petit peu aussi, ce côté making-of. Et je trouve que ça manque un peu dans le jeu vidéo, l'aspect making-of. Tu vois, en livre et même en documentaire, j'en parlais récemment avec Pierre-Yves, donc qui était celui qui est venu sur la dernière émission Interplayer 2. Et donc, la chaîne que j'ai oublié de nommer parce que j'étais sur No No No, je savais pas quelle chaîne c'était la chaîne Noclip qui font des super documentaires sur le jeu vidéo. Et ça manque un peu, je trouve, encore des documentaires en profondeur, que ce soit en bouquin et en film documentaire sur le jeu vidéo, dans la quelques-uns, mais pas tant que ça. Et donc, voilà, et je trouve que sur Twitter, de plus en plus, tu vois en fait des threads sur des jeux, sur des trucs comme ça, et donc ce que t'as mis toi à profit en fait pour faire son Monkey Island depuis un petit moment et que tu continues de le faire d'ailleurs.
Ouais, ben, en fait, l'idée, c'était pas forcément de parler de la création du bouquin. L'idée, alors les bouquins chez Fern, hein, c'est pas forcément le cas chez les autres, mais en tout cas chez Fern, ne mettent pas de visuel du tout, pour deux raisons. La première, elle est légale, c'est qu'on n'a pas le droit de le faire. Il faudrait avoir l'aval du cœur, là, en l'occurrence de Disney, et c'est pas possible. La deuxième, c'est que c'est leur credo. Enfin, voilà, ils ont décidé de laisser de la place au texte. Les images, il y en a partout. On connaît les jeux, etc. Et ils n'ont pas jugé ça important. Bon, c'est un angle particulier. Mais du coup, moi, sans être particulièrement frustré, parce que c'est un schéma que je connais, je commence à connaître maintenant, par contre, j'avais envie d'avoir un. Au final, de faire un bouquin 2.0, tu vois, c'est-à-dire d'avoir le pendant visuel de ce que j'étais en train de raconter dans le bouquin. Et donc, c'est pour ça que pendant toute l'année d'écriture, alors pas la quasi-totalité, parce qu'il y a des choses que je voulais pas déflorer, puisque je veux les laisser pour le bouquin, mais par contre, j'ai essayé de donner les images en me disant, bon, bah écoute, si quelqu'un lit le bouquin, et s'il a envie de trouver. Les visuels de tout ce dont je parle, et ben il pourra aller sur Twitter et puis il pourra tout retrouver à un endroit unique. Voilà. Probablement que personne, enfin peut-être personne ne le fera, mais en tout cas l'image est passée. Et puis en fait ça a servi de teasing. Je t'avouerai presque, alors pas malgré moi, mais presque sans en avoir forcément une intention, parce que enfin je n'avais pas forcément pensé à ça, c'est-à-dire que j'ai pas non plus un compte Twitter avec 14 000 followers. Donc, mais au final, ça a plutôt bien marché sur. Et puis, moi, j'aime bien en plus. Enfin, je veux dire, là aussi, c'est pareil. Enfin, ça, c'est propre à la création du bouquin. C'est-à-dire que pendant un an, tu vis complètement. Enfin, d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'il y a eu, il y a eu un ou deux mois là. Je crois que c'était en septembre, octobre, où j'avais même l'impression de bosser chez LucasArts. Hein. Enfin, je veux dire, je connaissais les couloirs et l'emplacement des bureaux de chacun des mecs de 1989, tu vois. Enfin, ça devenait psychotique.
Ça tombait bien puisqu'ils ont annoncé récemment qu'en plus ça avait réouvert. Ça, c'était la bonne info bidon qui est sortie. En disant, oh, ils engagent du monde à LucasArts. C'était toi en fait, ils t'avaient engagé.
C'est ça. Ouais, exactement. Et en plus, c'était rigolo. C'était une période avec laquelle j'avais des contacts réguliers avec tous ces mecs-là. Et donc, bon, tu vis avec eux, tu vis dans une ambiance, toi, tu t'immerges complètement dans cette époque, qui en plus là est quand même relativement lointaine, hein, il y a 30 ans. Et donc, bon, bah, tu as envie de continuer ça aussi sur Twitter. Enfin, il y a quelque chose de presque schizophrène. Hein, mais je pense qu'il faut au moins ça pour foutre ses tripes dans le bouquin. À mon humble avis.
Mais oui, parce que je ne sais pas si les gens se rendent compte, en fait, comme tu dis, de l'investissement, que ça coûte en temps, en énergie, mais ouais, bah, en énergie émotionnelle et tout ça. Que ce soit un documentaire ou de la fiction, ça, tu vas vivre avec tes personnages, et constamment d'ailleurs, hein, c'est pas qu'en écrivant, c'est-à-dire que quand tu te douches, quand tu fais à manger, quand tu parles aux autres, en fait, tu vis avec tes personnages. Et quand tu fais un truc sur le documentaire, tu vis pas avec des personnages, mais comme tu dis, tu vas vivre avec des faits, tu vas vivre avec des gens qui sont réels, qui ont existé. Donc, limite, effectivement, c'est comme si c'était des collègues ou des potes de bureau que tu fréquentes, en fait, tu vois, t'as ce côté-là,
Tu en as besoin en fait, tu vois, tu en as vraiment besoin parce que en fait il faut à un moment il faut que je pense qu'il faut que tu ne puisses ne penser qu'à ça, c'est-à-dire que il faut que tous les jours de développement ou les espèces de pseudo brainstorming qui se tapaient à l'époque, il faut que tu sois dans cette pièce, tu vois, pour te poser les bonnes questions, pour que tu puisses les poser aux développeurs alors, quand on a l'occasion, parce que il n'y a que comme ça que tu peux t'immerger. Enfin, je peux pas le concevoir autrement, tu vois. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. On fait probablement, enfin, c'est des bouquins de niche, on fait probablement pas du tout de la grande littérature. Il n'y a pas de Victor Hugo du bouquin du jeu vidéo. Donc, j'imagine que là où on peut pallier à un style défaillant ou à une prose un peu discutable, c'est clairement en ayant alors, d'une, mis toutes ces tripes. Et d'avoir creusé le sujet au maximum, d'avoir fait un boulot journalistique important, c'est-à-dire d'avoir bien vérifié ses sources systématiquement, de vérifier chacune des infos, parce que c'est affolant les conneries qu'on a pu accumuler, ou alors ces espèces de légendes urbaines qu'on colporte sur les studios, notamment sur LucasArts, et de savoir délivrer ça dans un certain sens de la synthèse. Bon, alors ça se travaille pour le coup. Il y a des techniques. Mais le reste, c'est du temps et de l'investissement. Donc, mettre, enfin, faire créer des threads sur Twitter et continuer à essayer de partager ces informations faisait aussi partie de cet investissement.
Ouais.
Et quelque part, il y a eu un rapprochement entre toute cette communauté, enfin, entre toutes ces anciennes gloires, si tu veux, du développement d'il y a une trentaine d'années, où j'ai même rencontré des personnes grâce à ça. Donc, c'est cool. Ça m'a aidé aussi sur le bouquin.
Ouais, et puis comme tu dis, c'est que ça crée du lien, parce que quand toi tu mets un trait, tu vas dire par exemple, eh bien ça a été dessiné par, ou vous savez, de la musique qui a été faite par lui, donc si le mec il a un compte Twitter, tu peux le nommer tout ça, donc toi déjà ça fait interagir avec lui, mais ça fait aussi donner de la visibilité à ces gens-là qui pour les gens de la niche sont des gens, comme tu dis, c'est des gens que toi tu vénères, mais qui la plupart du temps sont plus forcément connus ou les gens un peu oubliés. Et c'est bien aussi, comme on disait tout à l'heure avec toi, les correcteurs, tout ça. Mais c'est pareil aussi, sorti, bon là on va connaître les grands noms de Monkey Island, hein, comme tu disais, avec, c'est quoi, c'est Tim Schafer, c'est
Schaeffer,
Gilbert,
Aaron Gilbert,
voilà,
ouais,
mais
Gilbert, et puis oui,
et
enfin,
Michael Land pour comment s'appelle la musique par
la
exemple,
musique.
mais après il y en a plein d'autres qui seront moins connus, donc toi tu les nommes et ça, et c'est toujours bien de mettre, parce que c'est vrai que dans les jeux vidéo, et ça c'est tu qu'on a souvent, j'en parlais dans une autre conversation, c'était avec Merwan, donc du coin du joueur, où on disait que justement le problème, c'est que mis à part les grands noms du jeu vidéo, les autres on les connaît beaucoup moins, c'est pourtant c'est comme dans le cinéma, c'est comme partout, c'est quand il y a des crédits qui sont hyper longs et tout ça, enfin les noms ils sont pas là pour rien, tu vois, il y a des personnes qui ont bossé, qui sont investies, quoi. Et je trouve que c'est bien aussi, ton trade, c'était une manière aussi de mettre en valeur le travail de gens connus mais moins connus du jeu vidéo, et quelque part de leur redonner de la luminosité, parce que le but des bouquins que t'as là, c'est un peu ça aussi, c'est tu laisses, enfin, il y a un côté historique, alors peut-être petite histoire, mais tu laisses, voilà, ce que ça a apporté. En plus, LucasArts, quand même, les jeux LucasArts, ça a quand même vraiment apporté aux jeux vidéo dans une manière d'écrire. Enfin, il y a plein de jeux LucasArts, 90% de ce qui sort actuellement, c'est moins bien écrit que les jeux LucasArts, hein. Donc,
Oui. Enfin, c'est-à-dire que non seulement c'est probablement écrit, puis surtout ça, les jeux LucasArts ont été créés à une époque où alors techniquement et où les techniques de narration, techniquement, technique, hein, technique informatique et les techniques de narration n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a des outils narratifs, on a des théoriciens de la narration vidéoludique. Tout ça n'existait pas du tout en 88, 89, 90. Hein,
non, c'était encore terra incognita pour rester sur le côté navigation.
Ah, c'était. Voilà. Et d'ailleurs, ces mecs-là étaient des pionniers. J'y reviens plus en détail dans le livre. Mais après, c'est un luxe si tu veux pouvoir parler de gens précis, c'est un luxe que tu peux te faire. En l'occurrence, parce que ces jeux, ils ont aussi 30 ans et qu'ils étaient développés par 5, 6, 7, 8 personnes maxi. Et qu'au final, on les connaît tous, tu vois. Enfin, on les connaît tous. Je veux dire, on peut les retrouver tous. Là où, évidemment, sur Uncharted, j'aurais eu du mal à retrouver les 5, 600, 700 personnes qui ont bossé dessus, tu vois. Donc, clairement, tout est identifié. On sait que les décors du jeu que tu es en train de regarder, ça a été fait par un mec. Que les animes, ça a été fait par un mec. La musique, un seul mec. Enfin, tu vois, il y a ça aussi qui vient peser dans la balance où finalement, chacun. Tout le travail est bien authentifié et
Ouais.
identifié.
Et d'ailleurs, justement, alors rapidement, parce que je suppose que ça sera dans le bouquin, donc voilà, le but c'est pas de dévoiler, mais justement, comment ça s'est passé? Tu m'as dit que tu avais donc plus de. Bon, tu avais déjà un corpus qui était de textes, de sources qui étaient déjà présents parce que toi tu es un fan de la saga. Et après, pour la rencontre avec les développeurs, donc ils sont plus accessibles parce qu'au niveau des NDA et tout ça, ben, je pense que c'est quand même plus accessible, plus ancien. Ça s'est passé comment justement?
Pour certains plus accessible, pour d'autres c'était plus compliqué. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, globalement, si tu veux, il y en a quelques-uns qui depuis soit se sortiraient du jeu vidéo. Pour la plupart, ce sont les artistes puisqu'en fait ils sont tous freelance et ils bossent. Alors pour le Cinoche, pour des couvertures de bouquins, pour l'illustration, enfin ils font un peu tout, tu vois. Et le premier avec qui j'ai réussi à rentrer en contact, c'était Peter Chan, donc qui est un illustre concept artiste et artiste généralement plus sur les backgrounds, qui a bossé sur un nombre incalculable de jeux LucasArts de la grande époque, et qui a aussi pas mal bossé pour le cinéma depuis, qui est un habitué de Double Fine, la boîte de Tim Schafer. Enfin, voilà, donc un mec qui a toujours gravité à peu près dans cette sphère. Ultra talentueux. Et en fait, après, ça a été un jeu de domino. Lui-même m'a mis en relation avec Steve Purcell, Dave Grossman, qui m'ont mis en relation avec d'autres, etc., etc., etc. En fait, quand j'avais fini de leur poser leurs questions. Alors, tout ça, évidemment, s'étale beaucoup. Comme ce que je t'expliquais
Ouais.
tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, le temps qu'il y en a un qui te répond, puis il dit qu'il va te répondre, et puis en fait, il te répond 3 mois après, en te demandant de quitter. Enfin bon, tout ça, c'est quand même assez folklore, hein. Évidemment, il n'y a rien de mieux que de se voir en direct. J'ai eu quelques échanges Skype, enfin voilà, bon, c'était soit sous forme mail, soit sous Skype, il y a eu un peu tout, soit sous chat. Et au final, bon, bah, de fil en aiguille, j'ai pu interroger à peu près tous ceux que j'avais ciblés à la base, donc les grosses têtes, Tim Schafer, etc. Sauf Ron Gilbert, qui pour le coup est un mec assez particulier. Ron Gilbert, je l'ai eu à quelques occasions, mais il a toute l'ermite, en fait, et au final, tout ce que j'ai pu en retirer, je le savais déjà. Mais au moins, j'ai pu vérifier certaines sources. Mais en tout cas, j'ai pu interroger tous ceux que j'avais souhaité interroger. Et en fait, c'est Tim Schafer qui m'a dit à un moment, qui m'a envoyé un mail et qui me dit, redonne-moi la liste de tous les mecs que tu as interrogés. Alors, je commence à tous les citer les uns derrière les autres, il y en a une petite dizaine. Il dit, mais tu sais qu'il n'y a pas une seule nana dans ton truc, là. Donc ça ne me va pas du tout. Donc il m'envoie un mail. Alors il me dit, tu vas attendre 2 jours et puis je reviens vers toi. Et il me renvoie un mail 2 jours après avec les contacts donc de plusieurs des nanas qui ont plus ou moins directement bossé sur les Monkey Island sur les jeux LucasArts. Et en fait, donc de très loin, pas du tout les têtes d'affiche hein, qu'on mettait dans tous les magazines, etc. Et par exemple, il y avait Chris Brown, qui est une nana absolument adorable et qui est rien moins que. Alors, à l'époque du premier Monkey Island, elle était la responsable de la hotline. Donc, à une époque où il n'y avait pas Internet, il y avait une hotline dans ce genre de boîte. Donc, chez LucasArts, c'était le cas. Et quand tu étais bloqué dans un jeu, tu appelais ces hotlines.
Oh mais oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié mais oui, ça existait, c'est vrai, ça, les hotlines pour les aides.
Ah bah oui, ils appelaient ça la Intline. Et alors elle, ça a été une mine d'or d'anecdotes complètement fraîches, tu vois, enfin, qui n'avaient jamais émergé parce qu'en fait c'était des gens qui étaient dans l'ombre, contrairement aux grands développeurs. Et puis après, en fait, Chris Brown, par exemple, elle est devenue responsable du doublage chez LucasArts, doublage des voix. Puis elle est devenue responsable du doublage sur rien moins que la prélogie Star Wars des films de Lucas. Et elle a eu une carrière de dingue. Tu vois. Et donc cette nana, c'était un puits d'infos. Et puis, parmi les autres femmes des Monkey Island, il y a eu Tammy Borovic, Leila Dowland, enfin tout un tas de gens qui étaient, enfin de personnalités qui étaient dans l'ombre, mais qui en fait m'ont apporté un vent de fraîcheur et un regard nouveau, si tu veux, un regard un peu plus frais que celui qu'on assène d'année en année, depuis tant d'années, depuis 30 ans, sur LucasArts. Donc une autre vision sur ces équipes-là, et ça c'était fantastique. Et tout ça grâce à Tim Schafer, donc ça je lui tire mon chapeau parce que c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et en plus c'est arrivé 3 mois avant que j'ai fini d'écrire le bouquin. Donc je te laisse imaginer le niveau de réécriture et de stress que ça engendre. Mais donc oui, ça c'était absolument fantastique là-dessus. Et j'en suis très content. Et en plus je suis très content de pouvoir parler de ces personnes-là. Donc voilà.
Ben ouais, mais comme je te dis, ben c'est cool, puis c'est bien parce que tu vois le. Et maintenant que tu dis qu'elle a bossé sur la prélogie, quand t'as dit le nom, c'est ça, je me dis, mais le nom dit quelque chose, et tu vois, mais c'est parce qu'en fait, mais je pense qu'il y aura peut-être un jour aussi des livres qui sortiront sur LucasArts, mais parce que tu vois, on parle de George Lucas, et quand je vois des gens qui se foutent de la gueule de George Lucas, machin, je dis, mais les mecs, vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il a amené aux jeux vidéo, au cinéma avec ILM, enfin, le mec, je veux dire, sans lui, t'as pas le MCU, y a plein de trucs qu'il n'y a pas, en fait, et même dans le jeu vidéo, quoi. Le mec, c'est.
Oui, non, ben, enfin, bon, je sais pas trop, t'es probablement beaucoup plus calé en Star Wars et dans cette autre communauté, avec des gros guillemets, mais il me semble que, bon, passer effectivement la prélogie Star Wars, cette époque où il y a dû y avoir des levées de boucliers et des lancers de cailloux, vagues populaires, mais il me semble qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, quand même beaucoup. Tous reconnaître l'importance incroyable qu'a eu George Lucas sur la culture pop moderne. Enfin, je veux dire, ça me semble complètement impossible de remettre ça en doute.
Bon, j'ai vu des vidéos de spécialistes qui ont dit que le mec n'était pas un génie, que c'était pas un visionnaire, qu'il avait rien créé, qu'il avait été aidé par tout le monde. Mais bon, je me suis dit que voilà, hein, il y a de tout dans tous les mondes, donc c'est peut-être pas le but. Mais non, mais franchement, ouais, c'est quand même un créateur. C'est vrai que LucasArts, c'est quelque chose qui a vachement, comme tu dis, et je pense que ça se découvrira à la lecture de ton livre, donc on va pas rentrer plus loin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a quand même a vachement amené aux jeux vidéo, et il y a beaucoup de gens qui se sont formés chez eux, et voilà quoi, et quand après ça a disparu, ben forcément, ils ont fait quand même aussi plein de petits, c'est toujours pareil, hein, ça crée des générations de gens qui ont découvert leur jeu, qui ont envie de créer après par la suite, et si tu vois, si t'as pas LucasArts d'une certaine manière, ben t'as pas Telltale, et même si ça a mal fini Telltale, ça a donné après à des gens après qui ont fait ben, des trucs à la Life is Strange ça en donnera des nouveaux, et dans le truc narratif, tu vois, en fait, ça s'est développé. Et un truc qui était aussi, parce que tu parlais des femmes qu'il y avait dans l'industrie du jeu vidéo, mais même dans leur jeu, quand tu prends les personnages, ben notamment dans Monkey Island de Hélène Marley par exemple, c'est un des premiers personnages féminins qui est vraiment un personnage qui est passionnant, qui est bien écrit. Et dans les jeux vidéo, t'en as pas encore, t'en as un petit peu plus maintenant, mais t'en as pas des masses. Et donc c'est pareil, c'était précurseur là-dessus aussi, quoi, dans la manière d'écrire un personnage féminin.
À l'époque, c'était complètement révolutionnaire. Alors, c'est pas le personnage principal, puisque le personnage principal est un imbécile. Mais
Oui.
c'était complètement fou d'avoir un personnage comme Hélène Marley. Et c'était encore plus fou que les habitués dont je faisais pas encore partie. J'étais quand même assez jeune, hein, mais je pouvais pas me considérer encore comme un habitué à l'époque du point and click, mais en tout cas, j'avais déjà joué à quelques autres point and click avant Monkey Island. Et par exemple, quand tu connaissais la saga des King's Quest, qui était, enfin, moi que je considère, alors ça va faire hurler probablement certains fans, mais que je considère vraiment comme une niaiserie absolue. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'était un peu la saga portée par les rivaux de LucasArts, Sierra.
Ouais.
Et créé par Roberta Williams, qui est une femme, qui a créé quand même les rôles d'hommes les plus pathétiques et surtout les rôles de femmes les plus pathétiques, de princesses à sauver les plus ineptes. Et en face de ça, t'as un mec comme Ron Gilbert qui a écrit et qui tenait corps et âme à son personnage d'Hélène Marley. Enfin, je veux dire, qui a tout, enfin, qui a vraiment voulu lui-même la caractériser comme ça. Enfin, c'est exceptionnel, tu vois. Donc oui, ça allait beaucoup plus loin que le hasard. Il y avait une vraie note d'intention il y avait une note d'intention de faire chier tout le monde.
Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on trouvera dans tes livres, donc on va peut-être pas aller plus loin. Pour boucler un petit peu cette conversation, alors c'est vrai que d'habitude, je pars sur sur un peu ce que l'invité aime dans le jeu vidéo en règle générale et tout ça. Et en fait, avec toi, j'ai pas eu envie de faire ça. Je me suis dit, bon, après tout, on va pas parler de ça.
On s'en fout.
C'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'en fait, vu qu'on parle de Monkey Island, vu qu'on a. Et je sais que c'est un goût qu'on partage tous les deux, parce qu'on a échangé sur Twitter, c'est un peu comme ça d'ailleurs. Et c'est lié aussi à Uncharted 4, hein, avec Sif End qui se passe sur Libertalia, hein, sur la piraterie, justement. Monkey Island, c'est un peu ça aussi. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de films qui ont piqué par la suite à Monkey Island. Enfin, je veux dire, quand ils font Pirates des Caraïbes, ils pompent quand même Monkey Island sur plein de côtés. C'est pas aussi bon, mais ils le pompent là-dessus. Mais justement, j'avais envie de te faire parler de ta passion pour les pirates, parce que je sais que c'est un truc que t'aimes beaucoup, que t'aimes vraiment beaucoup. Donc voilà, pour finir la conversation.
Et alors, je sais pas si j'ai une passion pour les pirates. Je saurais même pas te dire, tu vois. Par contre, c'est disons que il y a des univers qui me passionnent. Et dedans, il y a évidemment celui, tu sais, cette espèce d'image d'Épinal d'univers de piraterie qui mélange l'océan, les grands bateaux à l'ancienne, type 17e, 18e, l'exotisme des îles paradisiaques. J'aime beaucoup cette image d'Épinal. Il y a ce qu'on aime bien en retirer, par exemple, mon livre préféré, ça reste L'île au trésor. J'ai pas trouvé mieux, je le trouve parfait. Il mélange absolument tout ce que j'attendrais de ce qu'on me raconte d'une histoire. Aussi bien sur le côté aventureux que sur la qualité d'écriture, que sur l'exotisme, et même sur la manière dont ça crée un univers autour de toi. Et ouais. Globalement, après ça, tout ce qui arrive à créer un univers, à partir du moment où je sens qu'il y a un univers qui existe, qu'il y a une espèce de mythologie, tu vois, qui se développe, Monkey Island, c'est une mythologie. Aujourd'hui, c'est une mythologie. D'ailleurs, c'est tant et si bien une mythologie qu'il y a plusieurs auteurs qui se sont amusés à la réécrire. Il n'y a pas que les Monkey Island de Ron Gilbert, il y a eu les suivants. Et Uncharted, il y a presque quelque chose de mythologique autour. C'est-à-dire qu'à un moment, je joue à Uncharted, plus pour jouer à Uncharted, je joue pour vivre avec des personnages. J'ai envie d'être avec des personnages, j'ai envie de rencontrer une certaine ambiance. Ce que je ne... ressent absolument pas dans aucune des autres séries parallèles de jeux d'action. Uncharted, il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts au niveau du gameplay, etc.
Mais en fait, c'est pas un jeu de gameplay, Uncharted.
Mais oui, absolument, on s'en fout, on s'en contrefout. On y va pour être aux côtés de certains personnages, etc. Le hasard a fait que, enfin, le hasard. Peut-être pas un hasard, hein, mais faudrait me psychanalyser pour ça. Mais le hasard a fait que ce sont deux jeux qui effectivement gravitent un petit peu autour des pirates. Mais demain, je pourrais être complètement immergé dans un monde, je sais pas, typé Star Wars. Enfin, à partir du moment où je me retrouve dans une espèce de mythologie où les personnages et où l'univers ont pris le pli sur tout le reste, tu vois.
Oui, en fait, mais pour le coup, ça revient à ce que tu dis à L'île au trésor, c'est-à-dire à savoir, parce que pour ceux que, donc on précise, L'île au trésor, c'est un célèbre roman de Stevenson, et qui est probablement un des plus grands romans d'aventure, tout simplement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas
à
tortiller.
Oui, oui, tout à fait.
C'est un des plus grands romans d'aventure qui, d'ailleurs, faudrait que je le relise, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas relu, et je pense que je vais relire cet été, parce que c'est bien à lire l'été, tu vois. Et comme tu dis, ça appelle à l'aventure, et ça crée, de toute façon, les pirates en eux-mêmes, quelque part, quand tu te renseignes un peu plus sur les pirates, t'as des livres d'histoire sur eux, mais même au niveau des sources, tu sais jamais trop, parce que la piraterie, en fait, c'est aussi un mythe. C'est un mythe, comme tu dis, de liberté, d'aventure, d'horizon, le côté de l'océan, c'est ça, c'est un peu découvrir des choses. La carte au trésor, c'est pareil, c'est un cliché, mais c'est parce que les pirates, c'était pas ça. Hein.
Voilà. Il y a une histoire du pirate, mais c'est pour ça que je me définirais pas comme un fan, tu sais, des pirates. Moi, je suis fan d'une certaine vision.
L'imaginaire que ça t'amène.
Exactement. L'imaginaire, je le trouve incroyable. Et alors, tout ce qui peut me replonger dans cet imaginaire, que ce soit dans les jeux vidéo, la bande dessinée, il y a des BD extraordinaires, tu vois. Alors, évidemment, je suis en train d'oublier le nom, là, mais... Bref, t'as des BD géniales, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être plus tard.
Mais tu sais, alors je sais pas si t'as lu quand t'étais gamin, parce que moi c'était une BD que j'adorais, et il faudrait que je les remette parce que je pense que c'est un peu vieilli. Moi j'adorais les Barbeaux Rouges, tu sais, c'est un vieux truc des années 70-80. C'était qui c'était,
je connais pas. En bande dessinée
mais c'est un vieux, vieux truc, hein. Il s'appelait Charlie, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est un truc à l'ancienne, mais c'était génial. Et bon, après, plus récemment, t'as eu par exemple l'espèce de BD qui est super bien là, sur Long John Silver, qui était vachement bien fichu, je sais pas si
Ah
tu
bah
connais.
voilà, par exemple fantastique, absolument sûr. Alors déjà sublime. C'est Mathieu Lefray, je crois, qui fait le dessin, et
Oui.
ce mec est complètement incroyable. John Silver, BD incroyable, qui travaille presque plus son univers et son lore que tout le reste. Enfin, je veux dire, c'est très court, hyper frustrant, mais c'est loin d'être parfait, mais ça complète, enfin, tu te plonges dans un univers.
Et puis il y a une imagerie qui est assez fantasmagorique en fait, qui est superbe.
Incroyable, ouais, incroyable, sublime. Et au cinéma ou en série télé, enfin voilà, et ça vaut aussi bien pour les pirates que. Enfin, c'est vrai que si je regarde les séries que j'aime, ce sont des séries à univers, tu vois, plus, qui peuvent être bardées de défauts. J'adore Star Wars, mais j'adore Star Wars parce que j'adore l'univers. J'adore son imagerie. J'adore
Ben c'est une mythologie moderne aussi, en fait.
voilà, cette ambiance, etc. Mais évidemment que pris froidement et cinématographiquement, il y a 1 million de choses à redire. Enfin, c'est bardé de défauts dans tous les sens. Il y a des déceptions incroyables, tu vois. Mais malgré tout.
Ouais, mais parce que comme tu dis, il y a un univers et surtout l'univers, en fait, il est présent et il t'intègre, en fait, il t'appelle à le découvrir. Et en même temps, de cet univers-là, comme tu dis, en fait, tous les points communs qu'il y a avec ce que tu as cité, que ce soit Uncharted, que ce soit les Monkey Island, que ce soit Star Wars, c'est qu'en plus l'univers n'écrase pas les personnages. C'est qu'en fait c'est pas tant l'histoire que tu suis que les personnages en fait qui sont moteurs de l'histoire. Et c'est ça qui est en fait, parce que même dans l'île au trésor finalement en fait c'est les personnages qui sont moteurs de l'histoire. C'est pas tant qu'une course au trésor que en fait la destinée de Jim Hawkins, que de celle de Long John Silver. Et c'est ça en fait qui fait que
Un élément qu'avaient particulièrement bien compris les mecs qui ont écrit la série Black Sails, tu vois, qui est une préquelle à L'île au trésor, et qui est génial, hein, absolument génial, hein, qui alors, encore une fois, est probablement bardé de défauts cinématographiques dans tous les sens, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, l'imagerie est là, et les personnages, mais il n'y a aucune trahison. Enfin, les personnages sont
Et
fantastiques,
il y a
quoi.
un vrai développement des personnages qui est super calculé. Alors pour le coup, je sais qu'il y a des pétitions de Game of Thrones, vous pouvez avancer ce que vous voulez, mais si vous voulez lancer dans une série qui est un peu dans le même style, enfin, au niveau de l'imagerie, même si c'est pas le même lieu, mais que vous voulez des personnages qui pour le coup sont jamais trahis jusqu'à la fin, c'est clair que Black Sails, il y a 4 saisons. La première, c'est une mise en place, c'est peut-être la moins bien, elle est bien fichue, mais à partir de la saison 2, ça monte crescendo, c'est fantastique. Ça, je conseille série qu'on peut donner, ouais.
Dieu sait que c'était casse-gueule. Hein. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu adules comme moi, tu veux L'île au trésor, et donc que tu l'as lu maintes et maintes fois et que tu t'es fait l'image, tu t'es imaginé, tu vois, les personnages. Moi, la première fois que j'ai vu le premier épisode de Black Sails, j'ai rigolé. Tu vois, quand la première fois que j'ai vu Long John, enfin, John Silver, j'ai fait, mais c'est pas lui. Enfin, c'est pas. Et ben, malgré tout, la série a complètement réussi à me bluffer, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que oui, la grande réussite pour moi, c'est d'avoir réussi à monter un personnage comme Long John Silver jusqu'au bout, et on en discutait il y a pas longtemps, mais la seule envie que j'ai maintenant, c'est de voir le Long John Silver avec le même acteur, dans le même contexte, mais dans l'adaptation de L'île au trésor, parce que c'est, bah ouais, maintenant c'est lui, Long John Silver. Tu vois. Donc non, non, c'est une belle réussite. Ouais.
Et d'ailleurs, ce qu'on précise dans la série, puisque tant qu'on parle de celle-là, on fera peut-être là-dessus, mais c'est comme tu dis, en fait, c'est une préquelle, ça se passe bien avant, donc on les voit qu'ils sont plus jeunes. Et là, le truc qui est très fort, c'est que c'est un peu à la manière d'un Assassin's Creed, mais en beaucoup mieux, et en mieux écrit quand même au niveau des personnages, tout ça, c'est qu'il mélange donc les personnages du roman, fait qu'ils étaient que mentionnés dans les romans, puisque ça se passait bien avant, et en fait, il les mélange avec des personnages, des pirates et des personnages réels, historiques, et c'est vraiment super fort ce qu'ils ont mis en place, et même au niveau des thématiques, tout ça, puisqu'ils mettent donc le capitaine Flynn on va dire le héros, plus ou moins, il y a plusieurs personnages, mais même les choix qu'ils font scénaristiques aussi sur les personnages, c'est osé et ils s'y tiennent et c'est vrai que c'est très fort, quoi.
Pour le coup, c'est cool, j'irai pas plus loin parce que ça déflorerait complètement la série, mais alors oui,
Bon, en tout cas,
c'était plutôt bien vu.
tu le conseilles, mais comme moi je conseille la lecture des 2 livres que tu as fait. Et donc, pour finir, juste rapidement, alors. Est-ce que je veux pas que tu me dises sur quoi t'es, parce que ça comment on va dire, c'est un secret pour l'instant, je suppose, à moins que tu veuilles le dire. Mais est-ce que tu vas te proposer des vacances là, ou tu t'es relancé sur un nouveau projet?
Ah non, je suis déjà sur un autre projet, mais effectivement je peux en dire beaucoup plus, mais non, non, je suis déjà dedans. Là, il y avait zéro vacances.
Voilà. Écoute, on restera sur, on finira sur ce mystère justement pour, tu vois, c'est ce côté encore l'appel à l'aventure. On laissera peut-être une carte au trésor pour qu'il trouve sur quoi est le prochain projet sur lequel tu travailles. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir participé à cette émission, d'avoir accepté de parler un petit peu du processus d'écriture. Donc c'était vraiment cool. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que les auditeurs auditrices qui nous écoutent ont aussi passé un bon moment parce que je trouve que c'est toujours bien comme allez-moi de mettre en avant quelqu'un comme toi qui écrit sur le jeu vidéo et par ce biais-là aussi de parler comme tu dis de tous ces personnes qui sont moins connues d'aller et puis de voir un peu comment fonctionne en fait l'écriture d'un bouquin parce que les gens sont pas forcément au courant de comment ça fonctionne. Je trouve que c'est bien aussi de le mettre en valeur. Donc voilà. Donc merci vraiment Nico.
Eh bien, merci à toi.
Eh bien, de rien, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Et puis donc voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao!